Mike, wind 25 degrees, 1 3 knots.
River green. Descend.
Hey, salut, ça me fait plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode de l'Expérience Shiban. Le podcast où nos invités te partagent leur parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés d'aéro. Je m'appelle Sébastien et avec mon équipe, on espère que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Formé à l'ENAC à la fin des années 70 ou au début des années 80, notre invité de cet épisode 25 n'a pas eu un début de carrière aussi linéaire qu'escompté. Pas toujours évident d'avoir sa place dans une compagnie porte-drapeau dès la fin de sa formation initiale de pilote. Surtout quand on sort de l'école dans l'un des fameux creux que connaît le marché cyclique de l'aéronautique. Et là tu vas me dire, mais c'est pas l'histoire d'à peu près tous les invités de l'expérience Shiban ça? Eh ben oui, c'est vrai, pour une partie d'entre eux en tout cas. Et c'est même le cas de beaucoup de pilotes tout court, mais c'est aussi une période de vie qui généralement amène des histoires à raconter pour notre plus grand bonheur. Notre invité du jour s'appelle Gilles Das et est là dans son réservoir d'histoires de vol incroyables, entre autres des atterrissages sur des pistes en latéride dans la Forêt Vierge en Fokker 28 ou encore des PTU en Mercure, un avion de ligne de Dassault des années 70. Bon, je m'arrête là, on va pas tout spoiler. Bonjour Gilles Das, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec moi aujourd'hui.
Eh bien, bonjour Sébastien.
Alors aujourd'hui, je te propose de retracer ensemble ton parcours et qu'on s'attarde sur quelques points en particulier, notamment ta formation à l'ENAC, ton travail au Gabon sur Fokker 28 et Boeing 737-200 avec un Gravel Kit dont on se souvient, dont Antoine nous avait parlé dans un épisode dans le Grand Nord du Canada. Ensuite, on pourra parler de ton retour en Europe et en France, de la fusion Air Inter-Air France que tu as vécu de l'intérieur, de ta carrière de commandant de bord long courrier chez Air France, et enfin du CRM, on définira le terme, et de son évolution au cours des dernières décennies. Alors encore un programme très chargé aujourd'hui, et c'est parti sans plus attendre pour cet épisode 25 de l'expérience Shiban. Alors ma première question, tu as été formé à l'ENAC sur la toute fin des années 70, début des années 80, comme je le disais en introduction. C'est une période dont mes collègues de promotion et moi-même parlons avec envie. En visitant le musée de l'Apazie à Saint-Tian, par exemple, on se rend compte, et on est presque jaloux, du nombre d'heures de vol que vous aviez en formation et des machines sur lesquelles vous voliez. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette formation à l'ENAC et nous raconter cette phase de ta vie?
Eh bien, oui, alors la formation à l'ENAC, ça se passait dans plusieurs endroits. D'abord, la formation théorique à Toulouse, je pense que ça existe toujours. C'était à l'ENAC, donc à Toulouse, où on passait le PL théorique. Alors, c'était des certificats à l'époque, il y en avait 5 ou 6, je ne me rappelle plus trop lesquels, mais enfin bon, il y avait de l'aérodynamique, du droit aérien, des opérations aériennes, etc., etc. Puis après, quand on avait eu le PL théorique, en fait, on allait à Montpellier, passer le pilote professionnel, donc sur HR100, c'est un monomoteur 200 chevaux avec train rentrant et IFR. Après, on faisait l'IFR mono et ensuite on faisait l'IFR bi sur Cessna 310. Et ensuite, on allait à Saint-Tian. Et à Saint-Tian, moi, quand je suis arrivé, je faisais partie de la promo à 18 et je faisais partie de la dernière partie de la promo, et donc en fait les premiers avaient fait du Morane Paris et il a été supprimé, et moi je suis arrivé, on est passé direct sur on a fait du Nord 262 et ensuite de la Corvette, alors que ceux d'avant avaient fait du Nord 262, du Morane Paris et de la Corvette.
Ah bon, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, et on sortait de là, on avait quand même 400 heures de vol. Et alors ce qui est quand même, moi je trouve ça assez impressionnant, c'est que moi qui n'avais jamais mis les pieds dans un avion de ma vie à part un baptême de l'air, je sors avec 400 heures de vol et je suis capable de manier un avion de ligne, quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez bluffant, quoi. Quand on repense à la formation française, moi, je trouve que c'est incroyable, quoi. C'est vraiment excellent. Et l'ENAC, c'était... à Montpellier, quand tu apprends à piloter, t'as un peu les instructeurs sur le dos. T'as pas toujours des mecs sympas, mais moi, je dois dire que je suis tombé sur des instructeurs quand même vachement bien. Et je me rappelle d'un qui s'appelait Monsieur Michaud. C'était un mec extraordinaire parce que, avant d'être instructeur pour les pilotes, élèves pilotes de ligne, il avait été, je crois, menuisier.
Ah oui.
Et ce mec-là, quand il montait dans l'avion, il était capable de te faire sentir le meilleur de tous. Et en fait, tu te défonçais pour lui. Et tu sortais de là, mais tu avais une pêche d'enfer, alors que t'en as d'autres, c'était toujours, t'es le dernier des derniers, t'y arriveras pas. Tu vois un peu la différence, quoi. Ouais, moi, j'ai eu un vachement bon souvenir de Montpellier pour ça. Puis après, à Saint-Yan, bah, t'étais un peu considéré un peu plus comme un grand garçon. Alors, moi, ça s'est vachement bien passé. J'ai fait du Nord 262. Je me rappelle, on faisait des vols. Notre instructeur, c'était un fan de bouffe. Donc, on se faisait tous les terrains qui allaient bien, genre Périgueux, Rodez et tout, pour faire des nappes sympas. Et puis après, sur Corvette, quand tu passes sur Corvette, alors là, t'apprends, tu te rends compte de ce que t'occupes comme espace parce que ça va beaucoup plus vite. Et on faisait de l'équipage à deux avec un instructeur. Donc, j'avais un binôme qui était un pote de promo et on est resté pote toute notre vie. On est toujours en contact. On s'est suivi partout. Et donc, on faisait un coup le copie, un coup le commandant de bord et on faisait des nafs comme ça. Et on apprenait un peu le début du travail en équipage, mais il n'y avait pas de CRM. Hein.
D'accord. Et c'était deux élèves devant et l'instructeur derrière ou...
L'instructeur au milieu, ouais. Okay. Et si je me rappelle bien, que je te dise pas de bêtises, alors peut-être pas au début... J'avoue que je me rappelle pas trop, mais pas au début. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, je me rappellerai toujours parce qu'on était tous les deux devant. Parce qu'à un moment, mon pote, il me parlait mal et il me gonflait un peu. Et l'instructeur qui avait vu que ça m'énervait, lui disait Olivier, quand tu t'adresses à Gildas, tu lui dis commandant. Ça a fait beaucoup rire.
Ça a dû détendre un peu l'ambiance, c'est bien.
Voilà. Ouais, non, mais je te dis, j'ai trouvé qu'on avait on avait pas mal d'instructeurs vachement bien, quoi. Et puis on est sorti de là, évidemment, t'as Air France, UTA, enfin t'as des gens qui venaient nous tester pour savoir si on allait rentrer, si on était capable de rentrer chez eux, quoi. Mais quand je suis sorti, en fait, quand on est tous sortis, on était au chômage. Donc moi j'ai fait comme beaucoup, j'étais à Grenoble, j'ai fait une formation d'instructeur, après j'ai fait un peu d'aéroclub, j'ai fait un an et demi d'aéroclub, je crois, si je me rappelle bien. J'ai grenouillé un peu partout, à l'aéroclub à Nîmes. J'étais aussi dans la région parisienne. Et après, c'est notre rentrée dans la grande compagnie. Et c'est là que, surprise, on passe les tests qu'on avait passés à l'entrée de l'ENAC, donc les tests psycho avec toute une batterie de tests que tu as dû connaître. Enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe maintenant. Mais... et là, on passe les mêmes tests avec les mêmes gars. Ils nous disent « Ah ben non, on va pas vous prendre, ça, c'est pas bon ». Mais ils te disent pas pourquoi, donc c'est vachement sympa. Et en fait, on était les trois derniers de la promo à passer ces tests et on s'est fait bouler. Et en fait, à l'époque, on était la dernière promo, les A18, à avoir un contrat qui faisait avec l'État, qui faisait que normalement, notre formation s'arrêtait à la fin de l'adaptation en ligne. Ça veut dire qu'en fait, Air France était censé nous faire une adaptation en ligne avant de nous jeter, quoi.
Ah, ok.
Et donc, on ne s'est pas trop laissé faire parce qu'ils nous ont dit « vous ne rentrez pas », mais ils ne voulaient pas nous dire pourquoi. Bon, après, on l'a su par la suite, mais c'est anecdotique. Et finalement, avec le recul, moi, je l'ai béni parce que j'ai fait plein de trucs que mes potes qui ont fait Air France n'ont pas connu, quoi. Je vous raconterai ça plus tard. Mais bon, quand tu es jeune et que tu as 25, 26 ans, tu te dis « ouh là là, ça commence mal, qu'est-ce que je vais faire ?» Et donc, en fait, à l'époque, le siège d'Air France, c'était à Montparnasse, en plein Paris. Et donc, on a fait le siège de Montparnasse à trois pendant 6 mois en leur disant « Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez que vous devez nous payer l'adaptation en ligne. Bah oui, mais trouvez-vous un travail et nous, on paye. Bah, » C'est pas à 25 ans, quand t'as 400 heures de vol et que tu sors de l'ENAC, tu trouves pas de boulot. Hein, faut pas rêver. Comme ça, c'est impossible. Donc en fait, à force qu'on soit sur leur dos, ils nous ont dit « Bon, bah, on va vous envoyer à Ergabon. » Parce qu'en fait, Ergabon... C'était le chef pilote d'Ergabon, c'était un capitaine 747 d'Air France. Et toute la maintenance était faite par des expatriés d'Air France. Et la compagnie marchait comme, fonctionnait comme ça. Et donc, ils avaient des entrées là-bas. Et bien sûr, ils nous ont dit, bon, on vous envoie à Ergabon. Vous allez nous signer des papiers comme quoi vous ne nous ferez pas de procès, vous ne nous ferez pas ci, vous ne nous ferez pas de malheur. On ne veut plus entendre parler de vous. Vous allez là-bas, quoi. Donc, nous, on a dit, bah oui, je ne savais même pas où était le Gabon, tu vois. Jamais été en Afrique de ma vie. Et puis, bah, vous allez aller faire du Fokker 28. Et bon, bah, très bien. Et nous voilà partis. En fait, la qualif se passait à Amsterdam chez Fokker. Puis bon, ça c'est, on est parti en qualif et on est arrivé là-bas, on a été intégré là-bas. Et à Ergabon, il y avait, à l'époque, il y avait 6 Fokker 28, un Boeing 737-200, le Gravel Kit et puis un 747. Et la moitié des les pilotes, c'était des Gabonais et des Français. Tout ça, ça marchait en bonne intelligence. Il y avait quelques Gabonais qui avaient fait les NAC, des jeunes copies, comme moi, comme toi, comme des tas d'autres. Et les anciens, les capitaines, alors ça, c'était des Gabonais, c'était des anciens, et c'était des mecs qui avaient quand même des heures de vol sur des avions qui n'existaient pas.
Ah oui.
Bon, ils savaient voler, mais c'était assez incroyable parce que bon, quand tu arrives là-bas, déjà, bon, c'est l'Afrique, tu n'as jamais mis les pieds en Afrique. Le terrain de Libreville, bon, c'est un grand terrain, il y a une piste en dur et tout ce qu'on veut, mais dans le pays, il y en a deux, il y a Franceville et Libreville, c'est tout. Et après, c'est des pistes dans la forêt vierge, dans la latérite, que tu desserres, piste en latérite, tu fais des vols un peu comme l'air inter, comme Air Inter, si tu veux, mais sauf que c'est au Gabon et avec des Fokker 28. Mmh. Et le Fokker 28, comme c'est un avion avec des réacteurs un peu comme la Caravelle, assez haut, il est assez haut sur pattes, il a les réacteurs en haut, ça crée absolument pas la latérite ni rien, c'est facile à mettre en œuvre, c'est une trottinette. Pour l'Afrique, c'était le truc idéal. Et d'ailleurs, moi, j'ai appris que les pilotes de chez Fokker, ils allaient s'entraîner là-bas de temps en temps.
Ok. Chez Ergabon ou juste en Afrique?
À l'occasion, quand ils ont livré les avions, ou je ne sais pas s'ils allaient à Ergabon, mais en fait, ça les intéressait de voir leur Fokker évoluer là-bas. Mmh. Et donc, de temps en temps, tu avais des mecs quand même un peu bizarres parce que, je me rappelle d'anecdotes, hein. T'as un mec qui un jour qui lui il avait compris que plus haut, plus chaud, plus vite. Mmh. Donc on montait toujours le plus haut possible, ce qui n'est pas forcément une bonne idée.
Mmh.
Mais bon, il y avait des gens comme ça. Il y en avait un autre un jour en voyant un avion décoller avec une pente impressionnante, il me dit on va mettre un cran de volée en plus et comme ça on va monter mieux.
Mmh.
Bon, voilà. c'était drôle, mais moyennant quoi, si tu veux. Alors, les Gabonais, eux, ils étaient très scolaires, ils volaient très scolaires. Donc, en fait, ça se passait toujours, tu vois, t'arrivais comme on t'apprenait, pente arrière, train sorti, voler machin, la bonne vitesse et tout. Bon, si toi, jeune copie, tu faisais l'arrivée à 259 en arrière, tu sentais que les mecs n'étaient pas tranquilles. C'était assez marrant. Mais bon, en fait, ça se passait bien, il y avait une bonne ambiance. Surtout quand tu vis là-bas, tu habites. J'ai passé déjà 6 mois à l'hôtel parce que déjà le temps qu'ils te trouvent un logement. Ensuite, pendant 4 ans, j'ai jamais eu une carte de séjour parce qu'ils t'en fournissaient pas. Mais les galons faisaient office là-bas. Et en Afrique, les galons font office de tout. Hein. Quand t'as des galons, personne te pose de problème. Mais quand même, il y avait. Quand tu te promenais en ville, souvent, il y avait des contrôles de police. Et quand tu ne connais pas l'Afrique, c'est assez surprenant parce que c'est un peu la France-Afrique. Hein. La France a beaucoup d'intérêt au Gabon. Et donc, tu ne fais pas n'importe quoi. Et il y a des... Alors, je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer, mais au Gabon, quand des gens étaient ministrables, c'était le président Bongo à l'époque.
Mmh.
Qui a toujours été élu avec 99% des voix.
C'est un très bon président, alors.
Voilà. Et quand les gens étaient ministrables, il y avait des sacrifices humains qui étaient faits pour qu'ils puissent être ministres. Et alors, quand tu parles de sacrifices humains, on dit mais tu rêves ou quoi? Et ben moi, un jour, on m'a arrêté. Ils cherchaient dans ma voiture une malle pleine de sexe d'enfants.
Ah ouais.
Alors, quand tu arrives au Gabon et qu'on te dit, ouais, tu demandes au gars, mais pourquoi vous m'arrêtez? On cherche une malle pleine de sexe d'enfants. Donc, tu ouvres ton coffre, évidemment, tu n'as pas de malle. Et là, tu commences à parler avec les Gabonais, avec les gens, parce que voilà, et tu t'aperçois qu'on vit dans un truc. Libreville, c'est pas une grosse ville. Dès que le président ou la présidente font un truc de travers, tout se sait. Mmh. Tout ça, ça bidouille avec la France. Enfin bon. C'est une drôle d'ambiance au début. Alors au début, tu te dis oh là là, puis après tu t'y fais. Moi, je me rappelle que de temps en temps, quand je savais qu'il y avait des contrôles et qu'avec mon épouse on allait se balader, je lui dis attends, je mets mon maillot de bain et dessus je mets ma chemise d'uniforme avec mes galons. Et il y avait des fois de temps en temps, il y avait des contrôles, les mecs ils se mettaient au garde à vous, ils te laissaient passer. C'était trop drôle. Et tu volais avec des anciens. Et j'ai volé avec des. Alors je sais pas si tu as connu, t'as entendu parler d'un mec qui s'appelle Jean-Claude Brouillet.
Moi, ça me dit rien personnellement.
Alors, c'est un gars qui est né dans les années 25 ou 26 et qui a créé la compagnie Ergabon. Et qui, et par la suite, quand il est parti d'Ergabon, il est allé en Polynésie faire la culture des perles noires. Et ce mec a écrit un bouquin qui s'appelle « L'avion du blanc ». Et c'est un bouquin passionnant parce qu'il explique au début de la création du Gabon, l'aviation de brousse et toutes ces choses-là. Et moi, j'ai volé avec des anciens qui l'avaient connu. Et je volais avec des mecs, mais ils étaient tellement habitués au Gabon que il y en avait un, on l'appelait Bip Bip. Lui, tu montais dans le Fokker, t'avais intérêt à faire la checklist parce que tu l'aies faite ou pas, de toute façon, il partait. Hein.
Il n'avait pas besoin de toi, en fait.
Ouais, en fait, c'était facile à mettre en œuvre, mais t'avais intérêt, parce que quand il disait bon, allez, on démarre et tout, t'avais intérêt d'avoir fait tout le truc, quoi. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on partait. T'avais quand même des mecs assez surprenants, tu vois. Des gens qui avaient fait des trucs en Afrique, des fois, tu te dis, bon, c'était pas catholique, mais bon, ça volait, ça se passait bien.
Ça se passait toujours bien, justement.
Ouais, ça se passait toujours bien. Ça se passait toujours bien. De temps en temps, il y avait un peu des conneries de fête, mais. À l'époque, il y avait pas de CRM, il y avait pas de tu faisais pas de rapport en disant j'ai fait une bêtise comme on fait maintenant, justement, ce qui permet aux autres de profiter pour pas et de tirer les leçons de tout ça. Ça existait pas trop, surtout dans ce genre de compagnie, quoi. Donc en fait, moi j'habitais en face de, après quand j'ai fini l'hôtel, j'habitais en face de l'aéroport, donc je traversais le parking et j'étais sur la plage, je traversais le parking et j'allais bosser, quoi. Donc c'était un peu la belle vie. Quand t'es expat, c'est un peu la belle vie parce que t'as une maison, t'as une femme de ménage qui te fait la bouffe, qui te fait tout, qui s'occupe de tout, t'as un gardien pour on sait pas le soir machin, tu vois. C'est une vie un peu sympa, surtout quand t'as des gamins en bas âge. Mais c'est un peu aussi une prison dorée parce que Libreville, pour en sortir, il faut un 4x4 ou il faut prendre l'avion. Parce que si tu veux aller voir tu vas à l'Embaréné, voir l'Institut du docteur Schweitzer, je l'ai fait. Tu prends un 4x4, tu ne peux pas circuler autrement. Et puis, on avait des tas de copains en brousse qui étaient VSN à l'époque, le tiers leur service militaire. Ils faisaient un service civique et ils s'occupaient d'exploitation en brousse. Alors, il y en avait qui s'occupaient du cacao, il y en avait qui s'occupaient de tas de trucs d'entreprise et qui faisaient 18 mois là-bas. Et comme ça, on s'était fait des copains comme ça parce que quand on allait avec le Fokker 28 sur les pistes, desservir les villages autour de Libreville, tu vois, c'était à peu près les plus loin devaient être à France-Suisse, c'était à 45 minutes de vol. En fait, quand on se posait, t'avais tout le village qui était là, hein, sur les pistes, devant la piste, et t'arrivais avec le Fokker et t'avais tout le village, quoi. T'imagines les barrières, le parking en atterrit. T'avais un chef d'escale, souvent c'était un blanc, alors qu'on appelle, on dit gaspillé, parce que les mecs qui ont passé toute leur vie là-bas, ils arrivent, tu te demandes s'ils ont bien toute leur tête et s'ils sont pas imbus. Ils étaient au troquet à côté, tu vois. Mais bon, c'est un truc vachement sympa parce que tu vois tout le village qui vient voir l'avion qui arrive avec les soutes pleines de. Moi, je me rappelle, je faisais mes copains qui avaient des enfants bas âge, ils me demandaient d'aller leur chercher des couches culottes au supermarché parce qu'ils en avaient pas là-bas, quoi. Donc moi, j'amenais les couches culottes et eux, ils me filaient des fruits et légumes, des trucs comme ça, tu vois. Et on s'appelait en HF. Ouais. On s'appelait en HF avant le vol. Ouais, tu vas me chercher ça, ça, ça. Moi, je te donne ça. T'as besoin de quoi? Donc voilà, c'est vrai que c'est une expérience vachement sympa. Et en plus, à chaque fois qu'on arrivait là-bas, t'avais que des percées radio-compas. Okay. Et une fois sur deux, la balise, elle marchait pas.
Ah, c'est embêtant.
Donc au bout d'un moment, alors bon, il y a une altitude de sécurité, c'est le niveau 50, 5000 pieds. Donc en fait, quand tu voyais pas, si tu étais au-dessus de la couche, tu descendais à 5000 pieds. Bon, si à 5000 pieds, tu étais encore dans les nuages, là, ça pouvait pas le faire. Mais en général, on trouvait toujours des trous pour passer. Des fois, ça se terminait un peu genre VFR, tu vois. Donc, c'était quand même une aviation particulière. Mais sinon, on faisait des percées radio-compas et à la fin, on faisait ça les doigts dans le nez, mais tellement facilement qu'on faisait ça comme un ILS, quoi, en vitesse évolutive carrément. Et le Fokker qui a ses fameux aérofreins en V derrière, je sais pas si tu vois comment c'est. T'as des aérofreins qui s'ouvrent en V juste sur la queue. Et donc, c'est vachement efficace. Et il y a même des compagnies qui régulent leur vitesse avec les aérofreins. Ils affichent un régime et ils régulent la vitesse avec les aérofreins comme ça. Okay. Et donc, en fait, tu faisais des percées radio-combat et ça se passait. On faisait ça les doigts dans le nez, quoi. Alors maintenant, c'est devenu vachement. En fait, avec les avions et fiches, je trouve que c'est devenu vachement plus compliqué les percées radio-combat.
Ouais, surtout qu'on n'en fait plus beaucoup, quoi, maintenant, aujourd'hui.
Voilà, mais à l'époque, il faut bien se rendre compte que quand on a été formé, je me rends pas trop compte maintenant si c'est toujours le cas, mais on faisait vachement de calcul mental et à chaque fois qu'on faisait une descente, t'étais toujours en train de réfléchir. Voilà, j'ai fait tant, je suis à telle altitude, j'ai telle vitesse, tant de mètres secondes, tu calculais ta VZ et en fonction de ta vitesse et puis tu faisais tes top chronos toutes les minutes et tu savais exactement où t'étais. Et à force de faire ça, on faisait ça vraiment sans problème.
Une seconde nature.
Mais il n'empêche qu'un jour, comme ça, la balise était en panne, et ben, on a commencé à quadriller et on n'a jamais trouvé le terrain. On est revenu à Libreville. Il y a d'autres fois. Il y a une anecdote comme ça. Il y a un avion qui, parce que bon, on disait que tout se passait bien, mais de temps en temps, il y avait un petit peu des ratés. Il y a un avion qui était sorti de piste à Bitam. La ville s'appelait Bitam. Mm-hmm. Donc, il était sorti de la piste. C'était une piste en latérite assez courte qui devait faire 1600 mètres. Et ils avaient eu des problèmes de freinage parce qu'ils ont fait. Ils ont terminé un peu dans les. En Afrique, on appelle ça les matitis. L'avion, il n'avait pas grand-chose. Et donc, en fait, il était resté sur place. Ils avaient envoyé un groupe de mécanos pour regarder le train, voir si on pouvait le ramener et tout. Et puis, moi, j'avais été désigné avec un capitaine qui était un ancien qui avait fait de la brousse, des milliers d'heures de vol sur la brousse. Et qui était maintenant dans l'aviation de ligne et qui était instructeur. Donc, il m'avait désigné. Moi, j'étais copie. Lui, c'était le capitaine. Et puis, on est allé chercher cet avion et on ramenait les mécanos. Et quand on est arrivé là-bas, il m'a dit, tu vas faire le décollage et tu me passes les commandes. Alors, on fait le décollage. Je lui passe les commandes et là, il me fait un passage sur la piste. Alors, déjà, on rentre le train alors que la consigne, c'était pas le rentrer. Mais il dit, ça fait rien, on va le rentrer. Et il me dit, je vais faire un passage sur la piste et puis après, je te repasse les commandes. Il a fait un passage, je te jure, on était plus bas que quand le train est sorti. Après, on est remonté. Après, on est rentré. Et il m'a dit, tu vois les arbres, le sommet des arbres là-bas, là-haut, tu te mets au ras des arbres. Donc moi, j'étais là à 250 nœuds et en commande de mon Fokker en manuel à faire la rentrée à Libreville à 250 nœuds au ras des arbres.
Wow.
Alors je peux te dire que c'est quand même des trucs fantastiques, mais quand on est arrivé, quand on est arrivé justement vers la mer et au-dessus du delta, il y avait quelques rivières et des deltas là, il m'a dit je prends les commandes parce que voler bas au-dessus de l'eau, ça s'improvise pas, hein, c'est vachement délicat. Mmh. Et là il m'a dit on est descendu, tu vois, ras de la flotte. Et il me dit, je vole un peu plus haut, j'ai arrêté de faire sauter tous les piroguiers parce que je me suis aperçu qu'il y en avait qui savaient pas nager. Et ensuite, on est arrivé sur les plages. C'est des plages désertes, hein. Et on a fait. Alors, je te parlais de Jonathan Livingston, le goéland, le fameux film là. On a fait du 250 nœuds en dessous du niveau des dunes là. C'est juste des trucs que tu fais jamais dans une vie normalement.
Ah, c'est dommage qu'il n'y avait pas des GoPro à l'époque pour enregistrer ça, parce que tu aurais pu faire un carton.
Ah ouais, ça c'est clair. Et donc après, arrivé, tu vois, genre 30 nautiques de Libreville, on est remonté un peu. On s'est mis sur l'ILS et puis on est rentré, quoi. Mmh. Et puis voilà, c'est tout. Personne ne nous a jamais rien demandé. Mmh. Et le jour où je suis passé sur... J'ai eu la chance de faire du 737-200 parce que, en fait, ça s'est trouvé comme ça. Il n'y avait qu'un avion et le copie... Il y avait deux, trois équipages dessus. Il y avait un des copies qui partait et c'était un Français qui rentrait en France. Et du coup, sur la liste, c'était mon tour et je me suis retrouvé à être désigné à aller faire du 37. Alors moi, j'ai dit, bien sûr. Mmh. Eh ben, la Calife 37, on l'a fait à Aer Lingus. Quand on est rentré à Libreville, on a fait de la Mania. Eh ben, la Mania, c'était avec le même instructeur. Eh ben, à la fin de la Mania, les gars, on descend au-dessus de l'eau. Et là, vas-y, avec le 37, même rebelote. Et là, mon binôme, c'était un Gabonais, et il lui dit, Alain, j'ai une femme et des enfants, là, t'es sûr qu'on descend pas trop bas? T'inquiète. Et donc... Voilà, c'est des souvenirs, tu vois, qui sont incroyables, quoi. Et après, Fokker 28, en fait, c'était 737, c'était la belle vie, puisque il n'y avait qu'un avion. Donc, je faisais un vol par semaine. À l'époque, j'avais ma fille qui était toute petite. Donc, moi, je faisais un vol par semaine. C'était pas trop difficile. Et on faisait la côtière, on faisait Libreville, Abidjan, Libreville, Lagos, Abidjan, Dakar. Ça s'appelait la côtière et on revenait. Alors, on faisait que ça. De temps en temps, on faisait un coup sur Franceville, mais on avait un gravel kit quand même. Donc, c'est-à-dire que, t'avais des perches devant les réacteurs de l'avion pour souffler l'air et les caillasses qui auraient, parce que de temps en temps, ils faisaient des pistes en latérite. Donc, t'avais ce truc qui était pris sur la pression, je sais pas laquelle, enfin, qui crachait de l'air devant les réacteurs de l'avion, des longues perches, hein, genre un mètre de long. Mm-hmm. Et puis, sous la roue avant, sous le train avant, t'avais un espèce de
comme un patin,
un peu ce qui un machin un peu comme ils auraient dû mettre sur le Concorde, tu sais, pour éviter
les débris,
les projections. Voilà c'était un espèce de plaque, hein, qui était de chaque côté de la roue pour éviter que y ait des graviers, que la roue projette des graviers vers les deux réacteurs, c'est tout. Mais à part ça, c'était un 737 normal. Je crois même qu'il avait des moteurs un peu plus puissants que ceux d'Air France à l'époque. Et puis voilà, et on faisait la côtière, et bon, et je volais avec. Et alors, c'était drôle parce que là, j'avais aussi des commandants de bord gabonais. Il y en avait un, je m'en rappelle. Alors, lui, il te faisait des approches. À Libreville, tu n'as jamais de vent. Tu as très peu de vent, on est sur l'équateur. Et quand tu as des orages, ça ne dure jamais très longtemps. Donc, et au Gabon, comme tu n'as quand même pas des terrains où tu peux te poser avec des gros avions tout le temps, en Afrique, en général, tu ne t'emmerdes pas avec le carburant, tu prends toujours ce qu'il faut, quoi. T'arrives pas avec le minimum pour dégager. Et je me rappelle, donc quand on faisait la côtière, je volais avec donc c'est des capitaines blancs, des capitaines noirs, et bien, y en avait un, lui, il faisait des approches avec une dérive alors qu'il n'y avait pas de vent. C'était assez drôle, et il posait un 737 3 points, et puis il se mettait debout sur les freins, et puis, genre, putain, je suis content d'être arrivé, quoi. C'était assez marrant.
C'était un peu de challenge.
Ouais. Et voilà, bon, et alors, moi, justement, c'est au Gabon que j'ai eu ma première panne moteur, et c'était sur 737, et j'étais avec un capitaine gabonais, et ce jour-là, c'est moi qui faisais l'étape, et on décolle de Lagos. Alors Lagos, c'était leur terrain... Ils avaient qu'une hâte, c'est se barrer le plus vite possible parce que Lagos, les avions étaient pillés, quoi.
Ouais.
Et alors, je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça, mais il y avait des DC-10 du TA à l'époque qui faisaient Paris-Lagos. Tu avais des gens en bout de piste qui, à l'époque, qui allaient ouvrir les soutes des avions pour piquer les valises.
Ah ouais, ok, non, j'ai jamais entendu parler.
Alors, donc, les Gabonais, quand on allait là-bas, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'on se barre le plus vite possible. Ouais. Et manque de bol, ce jour-là, à 200 pieds, bam, explosion, un moteur qui pète.
Okay.
Et moi, je suis... alors, j'avais pas beaucoup d'heures, j'avais fait 2 ans de Fokker, c'est tout. Et ben là, t'as appris à maintenir une V2. Ah ben ça, je maintenais V2, ouais. Ouais, mais je faisais rien d'autre. J'étais un peu scotché sur mon truc et genre, tu vois, panne de... T'as un peu de la bouillie dans le cerveau, là. Et ben, le commandant de bord, il a eu une vachement bonne idée. Un bout d'un moment, et qu'il a vu que je tenais bien le truc et que je faisais rien, il m'a dit « Bon, je prends les commandes, tu traites la panne.
»
Et hop, tu vois, c'était reparti.
Ouais.
En fait, j'ai traité la panne. Donc, c'est le grave dommage quand même. On a traité la panne et on s'est reposé à Lagos. Et là, on est rentré. Et là, j'ai passé 3 jours à Lagos dans les... Lagos, on avait une escale, mais normalement, on ne dormait pas là-bas. Puis c'est un pays qui est quand même vachement mal famé. Donc on était dans un espèce d'hôtel bunker et là on sortait pour aller dans les ministères pour demander les autorisations pour faire venir les pièces pour réparer l'avion. Enfin, je te dis pas le truc, mais voilà. Bon, ça c'était une expérience, ma première panne moteur. D'ailleurs, j'en ai eu qu'une dans ma vie, c'est celle-là. Et j'ai retenu, si un jour ça t'arrive et qu'on est bloqué, tu fais un changement complet. Le PF passe PNF ou le PM passe PF et le PF passe PM et hop, c'est reparti.
Ouais, ça débloque la situation.
J'avais retenu ça dans ma tête. Tu vois, le mec, il avait eu une vachement bonne idée.
Ouais. Et du coup, après, on vous avait pillé l'avion et vous êtes revenu, il n'y avait plus rien, juste les pneus.
Non, pas vraiment, mais voilà.
Bon. J'ai retrouvé L'avion du blanc, le livre sur Amazon. Et c'est marrant parce qu'il est proposé en bundle avec Il y a un bœuf dans le cockpit de Simon Ayotte, qui était un invité d'il y a une quinzaine d'épisodes là. Voilà, si jamais ça intéresse les auditeurs.
Mais au Gabon, c'est incroyable parce qu'on faisait presque du VFR hein, par moment. Je me rappelle pareil, un jour, on est revenu avec un Fokker à vide. Le capitaine, il a dit on va se faire du radada. On est descendu dans je sais pas si tu connais le lac de Sainte-Croix, là, dans le sud de la France. Avec les petites falaises là qui sont, c'est le lac qui est au bout du lac, il y a, comment ça s'appelle, les gorges du Verdon.
Ok, je connais pas ce lac, non, je vais regarder.
C'est un lac qui est assez encaissé. Et ben là au Gabon, il y avait un truc comme ça, un espèce de coin comme ça. On a pris le Fokker, on n'avait pas de passagers, le capitaine dit bon allez on descend, on s'est mis en radada, tu vois, en dessous du niveau des falaises, et puis
incroyable.
On s'est baladé avec le Fokker, quoi.
Incroyable.
Les militaires faisaient la même chose avec leurs avions. J'ose même pas te raconter ce qu'ils faisaient, quoi, les mecs, parce que là, c'était. Y a pas de radar, il y a rien, le contrôle aérien, c'est presque de l'auto-information. Donc en fait, personne te surveille, tu fais un peu ce que tu veux, quoi.
Incroyable.
Mais moyennant quoi, c'est une super expérience, parce que je veux te dire que les approches à vue, tu sais les faire, hein, et les approches radio-compas, tu sais les faire.
Ouais, c'est ça, ça doit pas te faire peur de déconnecter le PA, quoi.
Ah non, t'as pas peur. Non, parce que voilà.
On en parlera un petit peu plus
voilà,
tard.
Voilà, ça, c'est mon. Voilà, ça c'est mon expérience gabonaise. Et puis après, ben, je suis quand même rentré en France parce que ben, les compagnies embauchaient en fait. Après, j'ai essayé de rentrer à Air Inter, mais j'avais pas bossé le concours, donc la première fois je l'ai pas eu et je me suis retrouvé à Corsair. Parce que Corsair embauchait et en fait ils embauchaient sur 737-300. Donc du coup j'ai fait une transfo 200-300 et j'ai fait ça à Seattle chez Boeing. Et on était deux comme ça à faire la transfo. Et le problème, c'est que si tu veux, on n'avait pas fait du 737-200 en France. On avait fait ça au Gabon. Et moi, j'avais fait ma qualif Aer Lingus. Donc en fait, quand je suis allé chez Boeing, j'ai fait la transformation. Alors ça, c'était vachement sympa parce que chez Boeing, à l'époque, les mecs, ils venaient te chercher en limousine. Je ne sais pas si tu imagines. Maintenant, à mon avis, c'est plus comme
maintenant,
ça.
Tu prends le bus, j'imagine.
Ouais. J'imagine, ouais. Et donc, en rentrant, au bout de 15 jours, je suis rentré à Corsair. Et là, bah, impossible de voler parce que la DGAC, vous comprenez, il a fait que 800 heures de vol sur 737-200, mais pas en France. Donc, genre, on ne sait pas s'il s'est piloté, quoi. Et pendant un mois, j'ai rien foutu. Et jusqu'au jour où le chef pilote, je sais pas ce qu'il a, il a dû aller pousser une gueulante quelque part. Et puis, pouf, du jour au lendemain, bum, c'était parti. C'était bon, je pouvais piloter les 737-300 de Corsair. Et là, j'ai fait ben, du Corsair. On faisait la Grèce, on faisait des trucs sympas. C'était du charter, quoi.
Et comment ça s'est passé? Comment tu t'es adapté au nouvel avion qui n'était pas si nouveau que ça, j'imagine, mais surtout à l'environnement, les collègues?
Bon, écoute, évidemment, tu te retrouves en France, tu sais plus, c'est plus comme au Gabon, mais bon, finalement, je me suis adapté, tu t'adaptes aux EFIS. Et puis bon, avec la formation que tu as eue et le background qu'on avait à l'époque, je trouve que justement, c'était vachement bien parce que même au Gabon, si tu fais pas, on a piloté qu'avec des avions qui avaient des aiguilles, donc ça, on n'était pas perdu. Tu repasses à l'EFIS, au début, il y a beaucoup d'informations, mais au bout d'un mois, ça y est, t'as compris comment ça marche et c'est pas un problème, quoi. Mmh. Et ça se fait très bien, en fait. Et puis, t'es dans une petite compagnie, les gens sont sympas, tout le monde a intérêt à ce que ça marche, voilà, ça marchait plutôt bien. J'avais un pote qui était capitaine, qui avait démissionné du TA pour venir, encore un personnage, tu vois, avec qui j'ai volé. Mmh. À l'époque, il y avait quand même des personnages dans l'aviation. Tu avais des mecs, si tu n'avais pas la bonne, tu étais mal quoi, quand tu étais copie. Mais bon, en fait, ce n'est pas une si mauvaise formation que ça, parce que ça t'apprend à t'adapter un peu à toutes sortes de gens et tu te dis, bah, quand je serai capitaine, je ne serai peut-être pas comme lui. Quoi. Parce qu'il y avait des mecs quand même qui n'étaient pas cool. Quoi.
Ben justement, ça m'amène à une question. Moi, une des choses qui me fascine dans le pilotage d'un avion de ligne, c'est justement le travail en équipage. Deux inconnus qui se découvrent le matin, parfois pour une mission de plusieurs jours, et qui travaillent en symbiose. Et dans l'immense majorité des cas, ça se passe bien, mais pas forcément toujours, comme tu commençais à le dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du CRM, donc nous le définir, et ensuite la façon dont tu l'as vu évoluer au cours de ta carrière? Tu disais qu'au début, il n'y en avait pas du tout.
Eh ben, il n'y en avait pas du tout, et même quand je suis rentré à Air Inter, on ne parlait pas de CRM. Hein. Ouais. Parce qu'au début, quand c'est arrivé... Moi, j'ai eu l'impression que c'était au début, je me suis dit, bon, c'est un truc pour les gens qui ne savent pas se parler, quoi. Parce que dans un équipage, il faut se parler. Mais c'est vrai que moi, j'ai connu des gens, il fallait. Tu disais quelque chose en tant que copie, c'est tout juste s'ils t'écoutaient, quoi. Et donc, c'est pas évident quand tu es jeune copie, de donner son avis, parce que tu as des mecs qui te font sentir que, bon, tu sais rien, alors ferme-la, quoi. Alors, bah, j'ai eu la chance de ne pas trop voler avec des gens comme ça. D'ailleurs, il y en a un comme ça qui m'avait un peu gonflé, ça s'est mal terminé parce que je lui ai dit, écoute, tu vas faire l'étape et puis moi je ferai la radio, je veux plus entendre parler du pilotage. Parce que toutes les 30 secondes, tu vois, genre, il te prenait t'as peut-être connu des gens comme ça, enfin, j'espère que non, mais t'as des gens qui te tripotent des instruments sans que tu leur demandes, ils te tripotent le cap, ils te tripotent. Tu vois, à l'époque, il y avait des trucs comme ça qui se faisaient, quoi. Donc, c'est très désagréable et donc, moi, au début, j'ai vu le CRM, je me suis dit, bon, ça, c'est pour les gens mal élevés qui ne savent pas parler, qui ne sont pas capables de communiquer entre eux. Parce que dans un cockpit, il faut communiquer, il faut dire les choses et puis c'est tout. Et puis, mais il faut communiquer, mais il faut aussi savoir ne pas se fâcher et savoir être bienveillant, en fait. Moi, je dirais qu'il faut être bienveillant avec tout le monde de façon que les choses se passent bien. Et alors, au début, ben, les cours CRM, moi, je les voyais un peu comme ça. Puis après, il y a eu beaucoup plus de choses qui sont arrivées. Comment se sortir du stress, comment gérer, comment écouter. Parce que bon, finalement, moi, au début, dans l'aviation, on te met avec un collègue et puis voilà, tu te débrouilles avec lui. En général, ça se passe bien. Mais ça se passe bien parce qu'on a la même formation. Et si tu fais confiance aux gens, parce que c'est quand tu leur fais pas confiance que ça se passe mal, en fait. Parce que moi, j'ai remarqué que même si t'es bon, s'il y a un mec qui te met la pression... peut-être le meilleur de ta vie, il va te mettre moins que rien et là, tu vas faire des bêtises et tu les fais, les bêtises. Et je trouve que c'est vachement important d'être bienveillant avec ses collègues et de se mettre à la hauteur de celui qui pédale le moins vite, en fait. Parce que c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'on a tous, des fois, moi, je me rappelle de mon pote avec qui j'avais fait la Corvette. Alors lui, il pédalait à 50 000 tours minute, des fois à 100 000 tours minute. Il voulait te faire faire des trucs, mais à la limite, tu te disais, mais attends, laisse-nous, parce que là, tu es en train de nous fatiguer. Quand tu es dans un avion, si tu es à 100% tout le temps, le jour où ça allait mal, tout le monde va péter un câble. Donc, il faut savoir utiliser nos ressources et pas se surcharger bêtement pour des trucs qui n'ont pas lieu d'être, quoi.
Et c'est marrant parce que ça me rappelle une analogie qu'on m'avait faite en cours de MCC, donc la qualification de travail en équipage. L'analogie, c'était qu'un équipage, c'était un peu comme un paddle steamer, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Un bateau avec des roues à aube qui est utilisé en Louisiane, par exemple, des choses comme ça pour se balader sur les fleuves. Et que s'il y a une roue qui va plus vite que l'autre, bah en fait, on finit dans la berge sur le côté, quoi. L'essentiel, c'est que les deux aient la même vitesse.
Mais ouais, mais c'est exactement ça. Mais c'est vrai que dans les équipages, t'as des gens qui ont le don pour stresser d'autres gens. Et moi, je l'ai vu parce que bon, évidemment, avec les GP, on a tous emmené nos épouses en vol. Elles sont parties avec des copains et elles ont vu comment bossaient les gens. Et c'est drôle parce qu'elles te disent, ah, mais lui, il est pas dans son avion comme il est dans la vie. Et c'est un gros déconneur dans la vie, mais dans l'avion, il est pas drôle, quoi. Et en fait, si tu sais mettre les gens à l'aise, tu peux bosser vachement bien sans te prendre la tête. Et je trouve que justement, dans un équipage, ce qui est super important, c'est que tout le monde s'entende, quoi. Et il faut éviter s'il doit y avoir des conflits, il faut que ça se passe à l'escale, mais il faut pas que ça se passe en vol. Et c'est un truc super important. Alors, on te fait des tas de CRM, le CRM, en fait, c'est un peu justement pour prévenir tout ça, pour que les communications se passent le mieux possible, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on dit pas, parce qu'elles sont tellement évidentes pour nous. Et par exemple, les PNC, c'est ce qui est moi, je trouve que c'est plus intéressant avec les PNC, parce que eux, ils pensent des choses, tu te dis, tu sais pas ce qu'ils pensent, en fait, et des fois, ils osent pas venir te voir pour telle et telle raison, alors que c'est complètement idiot. Ou inversement, ils vont venir au mauvais moment parce qu'on leur a pas dit, mais là, c'est pas le bon moment pour venir. On n'a pas osé leur dire ou on leur a pas expliqué les choses. Surtout que maintenant, ils sont beaucoup moins formés aéronautiquement que de mon temps. Parce que de mon temps, je me rappelle qu'à Air Inter, les chefs de cabine, elles arrivaient dans l'avion, dans le cockpit. Elles étaient capables de faire... Elles connaissaient plein de trucs dans le cockpit, en fait. Ils avaient une idée de comment fonctionnait l'avion. Elles étaient capables de te dire à quelle altitude t'étais. Elles auraient été capables de servir de la radio. Et je me suis rendu compte que les PNC maintenant, c'était, ils savent plus rien, à tel point que moi, ça m'est arrivé sur long courrier des fois, en faisant des vols à vide ou des retours à vide, de faire venir des PNC dans le cockpit, leur dire bon alors qu'est-ce que tu fais si on est dans les pommes, tu connais, ah bah non tiens ça m'intéresse, donc parce qu'en plus ça les intéresse, mais on prend pas le temps de leur expliquer, quoi.
Ouais, je pense exactement la même chose. Enfin, j'ai pas de point de comparaison par rapport à avant, mais je me dis effectivement que dans leur formation, il manque peut-être un peu des choses aéronautiques.
Ça dépend des compagnies, bien sûr. Et quand tu sais comment marche un avion, bah, tu fais pas irruption dans le cockpit n'importe comment. Alors maintenant, on leur dit oui, bon, c'est pas compliqué, tu fais ce qu'on te dit, tu fais comme ça et tu fais pas autrement. Mais je trouve que c'est dommage que ces gens ne réfléchissent plus et qu'on leur donne pas les moyens de. Voilà. Et je pense que le CRM, en fait, c'est bien pour ça, c'est pour que tout le monde sache comment fonctionnent les autres.
Le CRM, s'il te plaît, parce que peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas.
Oui, alors, ça veut dire... oui, le crew resource management, ça veut dire, mais en fait, c'est pas propre à l'avion. Hein. Pour moi, c'est propre à toutes les entreprises. C'est faire en sorte que toutes les équipes fonctionnent en bonne symbiose et en bonne entente, quoi. C'est tout. Hein. Alors, moi, je ne suis pas formateur CRM. Il y en a sûrement. J'ai jamais été instructeur. Il y a sûrement plus de choses derrière ça à mettre, d'outils à donner pour se sortir des mauvais pas. Ça va aussi bien sur la gestion du stress que sur la gestion du sommeil sur long courrier, que plein de choses, que prendre soin de ses coéquipiers pour qu'ils soient bien dans l'avion s'ils ont un problème. Enfin bon. c'est pas que pour moi, c'est pas que de la technique, hein, c'est tout le reste, quoi. Ouais,
c'est gérer l'humain au final, parce que la machine, c'est, bah, c'est gérer,
exactement. Exactement, c'est gérer l'humain, en fait. Alors, c'est vrai que y en a qui gèrent mal et d'autres qui gèrent mieux, et que c'est pas instinctif et que tout le monde sait pas forcément le faire. Et que moi, personnellement, j'ai jamais été très psychologue, mais j'essaye de faire en sorte que, en fait, mon but dans l'avion, quand j'étais commandant de bord, c'est de faire en sorte que l'équipage se sente bien et qu'ils se sentent pas stressés. Je les ai écoutés vachement, les PNC. Moi, ça m'est arrivé une fois sur un embarquement où il y avait des reconduits frontières. Ça s'est très mal passé. Et la chef de cabine m'a dit, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé que ça se passe mal et qu'on parte. Et puis finalement, on pense que ça va se passer bien. Et là, en vol, ça commence à aller très mal. Mmh. Et donc, en fait, un jour, comme ça, j'ai débarqué un mec parce que ça hurlait de partout et que les flics faisaient n'importe quoi. Et je dis, maintenant, vous me l'enlevez. Ils étaient furax. Hein. Je dis, mais moi, tout le monde était debout dans l'avion. C'est tout juste, je me fais pas engueuler parce qu'il aurait fallu que je fasse asseoir les gens. Je dis, mais moi, je suis pas là pour faire la police. Mmh. Donc, et les PNC le sentaient mal et ils m'ont dit, écoute, nous, on le sent pas parce que si c'est comme ça, ça risque de dégénérer en vol. Et donc, moi, je les ai écoutés. Je dis, bon, écoutez, c'est pas grave. Il prendra un autre avion. C'est pas à nous d'assumer ça. Mmh. Et en plus, ce jour-là, c'est la première fois de ma vie que je suis monté dans mon cockpit. Et heureusement, j'avais dit à mon copilote, tu restes au poste, tu viens pas voir ce qui se passe. Quand on en a fait le décollage, je pensais encore à ce truc-là, tu vois. J'étais pas dans le décollage, en fait. Et je lui ai dit, tu fais l'étape. Et je me suis rendu compte après que j'étais pas dans le décollage parce que justement, je m'étais trop investi dans ce truc-là. Donc, c'est pas évident de prendre du recul comme ça. Et en fait, c'est pareil, le CRM, on t'apprend à te dire, à temporiser, en fait. Prendre du recul parce que il y a des moments, t'es dépassé. Si t'es au sol, qu'il y a des trucs qui vont pas, ou même dans l'avion, tu temporises, tu trouves un moyen. Et il faut prendre le temps. Et on prend jamais assez le temps dans un avion. Mmh. Parce qu'on nous dit, oui, on doit partir à l'heure, on doit arriver à l'heure. Finalement, non, tu pars quand t'es prêt. Mmh. C'est tout. Et t'arrives quand tu peux.
Bonsoir à la personne qui a vécu un peu en Afrique.
Alors, oui, les Africains m'ont appris un truc vachement important, c'est que l'inertie est très importante. La force de l'inertie, parce qu'en Afrique, quand les mecs, ils voulaient pas faire un truc, t'avais qu'un seul moyen de leur faire faire, c'est de leur dire, bon, vous voulez pas faire ce que je vous dis, bon, c'est pas grave. Vous voyez, là, je suis dans le cockpit, j'ouvre ma sacoche, tiens, j'ai un bouquin, je vais bouquiner. Puis quand vous serez prêt, vous me direz, puis on partira, parce que si vous faites rien, on partira pas. Mmh. Puis là, t'attends que ça sèche. Mmh. Mais parce que les Africains, nous, on a les montres, mais eux, ils ont le temps. Mmh. Et en fait, tu t'aperçois qu'en France et dans tous les pays européens, si tu prends le temps, je peux te dire que derrière, les mecs, ils se bougent. Mmh. Mais il faut pas s'énerver parce qu'il y a des gens qui montent vite en pression et qui s'énervent quand on fait pas les choses comme ils veulent. Et alors on fait pas les gens autour de l'avion font pas forcément les choses comme ils veulent parce que bon, ils ont été mal formés, parce qu'ils ont mal compris, parce que ceci, parce que cela. Mais ça sert à rien de les engueuler, de leur mettre la pression, c'est encore pire. Mmh. Et puis si jamais ils font la mauvaise tête, tu leur dis, écoutez, c'est simple. Hein, moi j'ai demandé qu'on fasse ça. Maintenant si c'est pas fait, l'avion part pas, puis c'est tout. Hein. Mmh. Et puis là, comme par hasard, ça se passe bien.
Problème résolu.
Et toi, tu t'es pas mis la pression trop parce que c'est très mauvais de se mettre la pression. Moi, ça m'est arrivé une fois comme ça et je me suis dit, heureusement qu'il n'est pas arrivé un truc au décollage parce que j'aurais pas été vraiment là. Quoi. Mmh, mmh. Et ça, c'est une chose que je pense qu'en CRM, tu t'apprends justement à t'enlever aussi la pression, à faire en sorte qu'il y ait le moins de pression possible dans l'avion. Mmh. Quoi.
Prendre le temps.
Moi, je trouve que c'est joli. Ouais, c'est très important, ouais, mais c'est super important parce que quand tu fais du court courrier, je veux dire, les mecs, ils sont pas à 5 minutes près. Alors, quand tu fais du long courrier, il faut arrêter, quoi. Mmh.
Bon, pas à 5 minutes près, ça dépend des compagnies. Hein.
ouais, mais je me rappelle d'une chef de cabine d'Air Inter à l'époque, elles n'avaient pas la langue dans leur poche, un passager qui dit oui, qui lui montre sa montre en montant dans l'avion, genre en faisant des grands gestes, on part pas à l'heure, on part pas à l'heure, et elle lui répond, mais monsieur, les cimetières sont plein de gens pressés.
Ah, ça calme, c'est pas mal.
Ça calme.
Et j'ai une petite question pour rebondir un peu sur l'aspect CRM. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, alors à la fois à des copilotes qui sont face à des captains un peu caractériels, ou alors à des commandants de bord qui sont face à des copilotes... alors je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de pire dans un copilote quand on est commandant de bord, qu'il soit effacé ou au contraire qu'il essaye de prendre le dessus?
Quand t'es effacé, on est tous au début un peu effacés. Hein. Je pense qu'après, il faut pas que tu te fasses bouffer. Mais si tu, moi, je pense que c'est moins grave d'être effacé. Enfin, si t'es effacé, ça dépend. Si le capitaine fait des conneries ou que t'es obligé de prendre les commandes, si t'es trop effacé, c'est pas évident, hein, parce que c'est vachement. Moi, j'ai pas vécu ça, si tu veux, mais maintenant, on apprend aux copilotes à reprendre les commandes à un commandant de bord en leur disant il faut t'affirmer et prendre les commandes si ça va pas. Moi, j'ai jamais repris les commandes à personne, à aucun copilote et à aucun commandant de bord. Ça, comme je te disais, c'est à Corsair, ça m'est arrivé. J'ai laissé les commandes à un commandant de bord. J'ai dit écoute, là, moi, je vais pas piloter parce que c'est pas possible, donc tu vas les prendre. Donc lui, il a piloté, mais ça, c'est pas pareil. Mais savoir dire que t'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est pas évident. Il faut mettre les formes, surtout avec un capitaine qui a de l'expérience, qui peut t'impressionner. Il faut mettre les formes. Et c'est vrai que quand t'es capitaine, des fois, tu t'en rends pas toujours compte. Et il m'est arrivé un truc comme ça, où justement sur 77, où on est parti de Charles de Gaulle à Sao Paulo, et à la fin de l'embarquement, on avait, à la fin de l'embarquement, t'as le chef de cabine qui vient de voir, j'ai tel problème avec tel passager, et ceci qui va pas, et cela, et il faut appeler un tel. Et puis en dessous, t'avais le gars qui chargeait les valises, qui me dit ouais, commandant, on a un problème avec le SRB, c'est ce qui réconcilie les valises avec les passagers, qui dit voilà, la valise de ce passager est bien dans l'avion, ou le passager est bien dans l'avion, on peut mettre sa valise. C'est un système informatique qui fait ça, et donc les mecs, ils savent que tel bagage, le passager n'est pas dans l'avion, on ne le met pas, tel bagage, le passager est dans l'avion, on peut mettre le bagage dans la soute. Et là, le gars vient me voir, il me dit le système ne va pas bien, il me dit que je ne peux pas mettre sa valise, cette valise-là, alors qu'on sait que le passager est dans l'avion, qu'est-ce qu'on fait? Et tout ça nous tombe dessus, et t'as en même temps le pétrolier qui me dit voilà, j'ai coulé tant de pétrole, je ne sais plus combien de milliers de litres. Et alors moi j'étais là, je lui dis bon, on fait les calculs avec les deux OPL, et puis je lui dis mais attendez, il manque 10 000 litres là, c'est pas possible. Je lui dis écoutez, alors le mec, je lui dis regardez votre camion, donc il regarde ses compteurs, et puis il me redit ouais, non mais c'est ça, c'est ce que j'ai mis. Et nous on regarde nos jaugeurs. Et on voit qu'on était à ce qu'on avait demandé et qu'en plus, on était à 4 tonnes de la masse max décollage. Donc, de toute façon, on n'allait pas rajouter 10 tonnes pour lui faire plaisir. Donc, je lui dis, écoutez, ce n'est pas possible, on verra ça plus tard. Et puis, je dis à mes copilotes, mais qu'est-ce qu'il nous raconte de 10 tonnes d'erreur? Mais il a fumé la moquette ou quoi? J'ai jamais vu ça, quoi. Et je leur dis ça, tu vois. Bon, la chef de cabine, le problème se règle, les bagages, les problèmes se règlent, et on s'en va. Et là, on part. Et on avait le carburant qui allait bien, tout qui allait bien, et on avait oublié ce truc-là. Et normalement, je sais pas comment vous faites vous, mais normalement, tu t'as sur l'ATL, tu notes le carburant qui quand tu rends l'avion, tu notes le carburant qui reste, et le suivant, bah tu notes le litrage, tu fais la conversion, tu regardes que tu mets, tu fais la conversion, tu regardes que ça va bien avec ce que t'as demandé, et tu notes le carburant à bord. Mais c'était pas une obligation, t'étais pas obligé de le faire avant de partir. Et nous, on le fait pas, on part parce que c'était 11h30 du soir et à minuit, si tu décolles après minuit, tu te chopes des amendes à Charles de Gaulle. Donc on part, on avait les jaugeurs impeccables et tout. On avait le carburant qu'on voulait au top décollage, on avait enfin ce qu'on avait calculé, donc on était dans les clous. Et là, au bout d'une heure et demie de vol, il commence à y avoir un fuel disagré qui apparaît. Bon, c'est une anecdote en plus, mais c'est nous arrivé en vrai, quoi. Le fuel disagré, et là, il y en avait un qui était dans la couchette en train de dormir. Et là, je regarde le copilote, je lui dis « purée, c'est… tu sais quoi ?» C'est les 10 tonnes, je suis sûr que c'est les 10 tonnes. Il y a les 10 000 litres, là, il y a un truc qui ne va pas. Et là, on part dans le truc, tu vois, fuel disagré, donc problème de carburant, tu dois voir s'il y a une fuite, enfin, tu dois faire tous les tests, c'est vachement compliqué. Et je venais de faire 2 mois avant le simulateur de vol là-dessus. Et tu vois, la première chose que je lui dis, écoute, on va regarder, si on va à Sao Paulo, on va regarder si avec ce qu'on a, on peut aller jusqu'à la côte brésilienne, parce qu'on ne va quand même pas revenir balancer tout le fuel par-dessus bord pour aller en reprendre, quoi. C'est complètement con. Donc, je dis, mais bon, normalement, la checklist, on est censé descendre, couper un moteur, faire des tests, voir si ça fuit. Enfin, c'est un vrai bordel.
Et sur quelle machine, pardon?
Sur le 77.
Ok.
Alors, c'est un truc assez complexe. Et je lui dis, écoute, s'il nous manque 10 000 litres, on fait nos calculs. De toute façon, on peut se poser à Fortaleza, Natal, enfin, tous les terrains de la côte et on va arriver à l'heure où c'est ouvert, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, on sait qu'on peut aller là-bas. Et puis maintenant, est-ce qu'il nous manque 10 minutes ou est-ce qu'il y a vraiment une fuite, quoi? Et en fait, la seule façon de le savoir, c'était d'attendre que les jaugeurs, qu'on ait une erreur de 10 tonnes sur le carburant embarqué. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes ce que tu as consommé, tu regardes s'il te reste. Et si à partir du moment où il manque 10 tonnes, tu sais que tu as une erreur. S'il commence à t'en manquer 12, 13, 14 ou 15, c'est là ça fuit. Donc en fait, on s'est dit, bon, bah, ça ne va pas prendre trop longtemps, quoi. Ben si, en fait, ça a pris vachement longtemps. Ça a pris 4 heures l'histoire. Et pendant ce temps-là, on était en conversation avec la veille opérationnelle d'Air France et le pilote qui était là-bas, qui s'en occupait, était vachement opérationnel, c'est le cas de le dire, parce qu'il nous a dit, écoutez les gars, Si vous allez à Fortaleza, j'ai prévenu le chef d'escale, on va bientôt ouvrir la ligne, il vous attend, vous pourrez refaire le fuel. Si vous avez une erreur de 10 tonnes, bah, vous rajoutez 10 tonnes et puis vous terminez à Sao Paulo. Mmh. Et nous, c'est ce qu'on voulait faire, mais il fallait qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de fuite. En fait, l'histoire a duré 4 heures. Au bout de 4 heures, les jaugeurs ont arrêté de dériver et on s'est aperçu qu'il nous manquait bien 10 tonnes. Mmh. Mais on n'a pas, si tu veux, là, on a pris la checklist, mais on ne l'a pas faite complètement. On a essayé de l'adapter, justement, d'avoir un peu de jugeote et de pas. Parce que s'il faut que tu commences à descendre pour couper un moteur, que tu remontes et tout, tu vois, c'est vachement lourd. Et on s'est dit, bon, bah, on longe la côte de l'Afrique. Si jamais il y a une fuite, de toute façon, au pire, bah, on ira se poser à Dakar ou sur un terrain africain. Et puis voilà. Et en fait, il s'est avéré que voilà, c'était bien l'erreur de 10 tonnes. Mmh. Donc en fait, on a poursuivi, on est allé à Fortaleza. Et bon, là, en fait, et puis après, on est allé à Sao Paulo, on a perdu une heure dans l'histoire. Mais la morale de l'histoire, c'est que quand j'ai dit à mes copilotes, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, là, 10 000 litres d'erreur, c'est pas possible. Bah, je les ai influencés et ils m'ont pas contredit. Mmh. Et tu vois, et on l'avait pas noté sur l'ATL, parce que si on l'avait noté, on serait jamais parti comme ça, parce qu'on aurait appelé la maintenance et on leur aurait dit, attendez, il y a un truc qui va pas. Mmh. Et par la suite, et d'ailleurs, bon, là, quand on a relaté l'incident, voilà, les officiers de sécurité des vols, ils se sont dit, mais comment ils ont pu tous les trois passer à travers ça? Mmh. Ben, on ne sait pas.
Il suffit qu'il y en ait un et les autres suivent, quoi.
Ouais, voilà, non, mais tu vois, c'est vachement difficile de. Peut-être que, comme moi, ils se sont dit, non, mais c'est pas possible. Et puis après, ils ont oublié, parce que moi, je l'ai oublié, le truc. Je suis passé à travers parce que je l'ai oublié. Et ils ne me l'ont pas rappelé parce que peut-être ils l'ont oublié ou peut-être ils m'ont fait confiance. Je ne saurais jamais, en fait. Et on n'arrivait pas à l'expliquer. Bon, et puis voilà. Donc, en fait, tu vois, bon, donc après, il faut prendre le temps de réfléchir, il ne faut pas se mettre la pression, pas faire de. Mais bon, en général, tous les problèmes se traitent. Il faut simplement utiliser sa tête et les ressources de son équipage, c'est tout.
Et deuxième morale de l'histoire, si les avions étaient 100% automatiques, comme ce sera peut-être le cas dans 50 ans.
Ou ouais, plus, bah moi, je ne monterais pas dedans.
Hein. Ouais, vous seriez posé à Marseille, quoi.
Bah, ouais, enfin non, mais en surcharge, non. Ou alors, oui, ils auraient défioulé l'avion et ils auraient balancé 70 tonnes dehors et puis voilà, reposé l'avion. Mais bon, c'est du gaspillage et puis ce n'est pas un truc à faire, quoi.
Bah, merci beaucoup pour cette anecdote. Et du coup. Donc ouais, c'est ça. Donc la morale un peu de l'histoire, c'est pour les copilotes de quand même penser à challenger le commandant de bord si jamais ils sont
c'est un peu ça, ouais. Et puis bon, bah si tu tombes sur des mecs caractériels, bah donc moi je dis, j'avais un capitaine qui était un copain et qui était caractériel, mais il m'avait à la bonne et je savais le prendre, parce que c'est vrai que si tu sais pas prendre les gens, ça peut mal se finir, quoi. Parce qu'il y en a, j'en ai connu, hein. Il y a Air France, il y en avait quelques-uns, il y en avait qui se hurlaient dessus. Moi, j'ai pas volé avec, mais j'en ai entendu parler, quoi. Mais c'est fini tout ça, parce que bon, maintenant, il y a des gens qui sont quand même, avec le CRM justement, il y a des gens qui sont beaucoup. Voilà, on a travaillé vachement sur l'humain. Je pense qu'on a fait pas mal de progrès, et il y en a toujours à faire. Le problème, c'est qu'on fait du CRM, mais maintenant, on veut enlever l'humain, donc je trouve ça complètement idiot.
Ouais. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on revienne un petit peu sur ta carrière. On avait vu l'ENAC, le Gabon, Air Méditerranée sur 737-300.
Corsair. Et puis après, je suis entré à Air Inter.
Ok. Air Inter. Et du coup, comment ça s'est passé le passage à Air Inter et surtout ensuite la fusion entre Air France et
Air Inter. Alors, le passage à Air Inter, je suis arrivé de Corsair à Air Inter. Je me suis dit, mais Air Inter, c'est le Club Med. Je suis tombé sur des mecs. Des gens mais adorables, les commandants de bord, tu vois, quand tu étais en formation, en qualification, alors t'as fait quoi, tu viens d'où, ah ouais, vous travaillez comme ça et vous avez fait ci, bah tu vas voir, ici on fait comme ça. Et c'était une compagnie super opérationnelle, dans le sens que tout était axé sur la mission, c'est-à-dire que en bas des avions t'avais une écurie de Formule 1 et quand les commandants de bord disaient faut faire ça, les gens faisaient ça, ils étaient aux ordres, tout se passait vachement bien, ils gagnaient beaucoup d'argent tous. Les gens du sol, contrairement à Air France justement où c'était un peu le défaut, les gens du sol t'étaient super bien accueillis, t'arrivais, ah vous êtes nouveau, bienvenue, tout le monde profitait des GP dans cette boîte et je peux te dire que les GP il y en avait partout, même dans les toilettes à l'époque. Et il y avait une super entente et c'était une compagnie un peu à l'américaine en fait. Par exemple, toutes les checklists c'était simple, tu répondais effectué, t'avais pas à te prendre la tête, tu répondais effectué. Et tout est basé sur l'opérationnel. Et par exemple, tu faisais jamais d'approche aux instruments quand il n'y avait pas besoin. Tu faisais des approches à vue. Mmh. Et c'est là que j'ai vraiment. Alors au Gabon, j'avais appris. J'avais des approches à vue, si tu veux. Mais là, j'ai appris les approches à vue. Genre, tu arrives 350 nœuds vent arrière. Mmh. Et tu poses ton avion. Et depuis le début des centres, tu n'as pas touché les manettes. Mmh. C'est-à-dire qu'elles sont réduites. Et donc, ce qui veut dire quand même, parce que ça, c'est pas un truc, c'est un truc que ça se pratique. Et ça ne s'invente pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, sans arrêt, dans ta tête, en train de faire un calcul mental, en train de voir où tu en es de ta descente et de transformer le potentiel en cinétique et le cinétique en potentiel, et tu n'obéis pas aux aiguilles, te disent qu'il faut descendre maintenant, il faut faire ci, il faut faire ça. Mmh. Toi, tu fais une gymnastique mentale et tu te dis, je suis à combien de... Par exemple, je veux être stable, je veux être à 10 000 pieds à 30 nautiques, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça ? Mmh. Donc, je suis trop haut, je suis trop bas. À l'époque, il y avait moins de trafic. Les contrôleurs, ils savaient air inter, c'est bon, vous pouvez y aller. Parce que maintenant, tu arrives à 350 nœuds derrière un avion qui est à 200. On va te faire réduire à 200 parce que le contrôleur, il ne veut pas se prendre la tête. Et il applique des procédures, il ne réfléchit plus. Mmh. À l'époque, ce n'était pas ça. C'était vous êtes à 350, c'est bon, vous pouvez pousser à 380. Ouais, vous allez doubler l'avion devant.
Alors du coup, 380, c'était dans quel avion ça ?
C'était le Mercure.
Parce qu'en 3 ans, c'est compliqué, je pense.
C'était le Mercure. Le Mercure, c'est un chasseur. Alors, il montait, il n'avait pas des moteurs très puissants, il ne montait pas très bien, mais je peux te dire qu'il descendait bien.
Ouais.
Et en plus, non seulement... donc, c'était à partir du moment où on avait réduit les manettes, on ne touchait pas jusqu'à l'atterrissage. Donc, pareil, un tout réduit, ça s'improvise pas. Il faut savoir, je veux dire, il faut surtout pas faire ça quand tu l'as jamais fait, quoi. Parce que c'est, et d'ailleurs, ça se fait plus. Maintenant, je veux dire, moi, si je fais un tout réduit, je le fais jusqu'à 1000 pieds. À 1000 pieds, je suis stabilisé. Ou à 500 pieds si je suis en VMC. Mais c'est pareil, hein, c'est toujours la même gymnastique. Parce que si tu suis ce que te dit ton directeur de vol, il est moins bon que toi. Hein. Si tu sais calculer, il est moins bon que toi, que ce soit sur Boeing ou sur Airbus, tu fais mieux. Mais il faut pouvoir adapter ta vitesse aussi et ta hauteur comme tu veux, ce qui n'est pas évident maintenant parce qu'avec les contrôles aériens, tout ça, c'est un peu terminé. Tu peux quand même faire... Parce qu'à l'époque, quand même, on faisait Paris-Marseille en 55 minutes, une heure maintenant, mais 1h15. Hein. Donc, chercher l'erreur. Bon, il y a plus de trafic. Mais moi, je vois des compagnies qui arrivent à Marseille, ils font un temps de curé, ils font une procédure pour la 32, là, ils vont, je sais pas où, tout juste, ils vont pas en Corse avant de revenir, quoi. nous, on arrivait vent arrière, main droite en 32 à 340 nœuds, hein, et on tournait avant la colline. Donc, si tu veux, mais si possible, sans sortir les AF. Mais si tu veux pour faire ça, la première fois que tu le fais, le capitaine, il te dit, bon, bah là, le point de repère, tu dois passer là, la petite colline à 1000 pieds. Donc, si tu veux être à 1000 pieds là, qu'est-ce que tu fais pour avant, etc., etc. Puis tu remontes comme ça, toute ta vent arrière, et tu sais ce que tu as à faire. Mais quand tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, tu sais faire. Et on connaissait tous les terrains par cœur. Alors, c'est un peu le défaut, parce qu'à la limite, à la fin, tu sortais même pas les fiches, quoi. Tu connaissais tout par cœur. Donc, c'est aussi le danger. Il faut quand même les avoir, mais c'est le danger de la routine. Hein. Mais bon, c'est le danger dans notre métier, la routine. Ça a toujours été ça, hein. De connaître trop bien les choses. Mais en même temps, c'est un plus parce que opérationnellement, on mettait une heure pour faire Paris-Marseille. Alors c'est vrai, on allait plus vite, on consommait peut-être plus de carburant, sauf qu'on mettait un quart d'heure de moins. Donc l'un dans l'autre, maintenant, quand tu montes au 350 pour aller à Marseille, alors que nous, on faisait ça au 280, on avait la meilleure VP, je ne suis pas sûr qu'en mettant 1h15 et en montant au 350, tu consommes plus ou tu balances plus de CO2 dans l'atmosphère qu'en étant au 280 en volant qu'une heure. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul.
Non plus.
Mais si tu veux, à Air Inter, quand on est arrivé, aussi bien la direction que les syndicats nous disaient, vous avez compris comment ça marche, on va du point A au point B en toute sécurité, plus on va vite, plus on gagne d'argent, et vous aussi. Tu ne peux qu'adhérer.
On va vite alors. C'est comme ça.
Et en plus quand tu es sur un courrier, c'est un peu un challenge d'aller vite, quoi, parce que là, pour le coup, tu es un peu speed. Tu es un peu speed. Mais en dessous, il faut quand même l'écurie de Formule 1. Et justement, c'est un peu ce qui manquait quand on a fait la fusion. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont mal vécu parce que Air France voulait nous apprendre à faire du court courrier alors qu'ils savaient faire que du long courrier, en gros. Et eux, c'était les rois de la paperasse, parce qu'à Air Inter, quand tu partais en vol, tu faisais ton courrier Paris-Marseille, t'avais deux feuilles. T'avais une feuille pour ton log de nav et puis une feuille avec toutes les infos pertinentes, c'est-à-dire ce que t'avais besoin de savoir sur la météo, sur les notam, sur ton trajet et sur les terrains de secours. Le reste, basta. Quand on est passé Air France, on avait un dossier avec 50 feuilles. Donc, si tu veux, il y a des mecs qui le prenaient, le mettaient à la poubelle directe. Ils disaient, mais attends, on descend, on met 6 tonnes pour descendre et 7 tonnes pour remonter. Tu crois pas que ça va changer? On va pas mettre 5 tonnes 850 et et en fait, c'était un peu le défaut. Parce que bon, Air France est quand même une compagnie extraordinaire. Il faut pas croire que je crache dans la soupe. Au contraire, moi, j'étais vachement content d'arriver à Air France après avoir fait autre chose, justement. Mmh. Parce que j'avais une expérience qui faisait que je me suis dit bon, c'est un peu casse-pied, pourquoi toute cette paperasse alors qu'on en a pas vraiment besoin. Et j'ai eu la chance, justement, quand on a fait la fusion, moi je suis passé commandant de bord 320, et comme je connaissais, il y avait que l'avion que je connaissais pas, parce que je connaissais le réseau et je suis resté hors ligne. Donc en fait, une fois que j'ai passé la calife 320, bah, j'étais sur un réseau que je connaissais, donc c'était quand même assez facile pour moi. Et pour moi, c'était de l'aéroclub, en fait. Je faisais de l'aéroclub avec un 320, parce que la France, c'est un grand aéroclub, en fait. Et t'as plein de terrains vachement intéressants, parce que tu vas en Corse, t'as quand même des terrains super intéressants en Corse. Dans le sud de la France, Marseille, Toulon, bah, c'est des terrains, il faut savoir piloter si tu veux vraiment faire des approches à vue. Quand tu vas à Brest, avec le vent qu'il y a, si tu ne sais pas piloter, tu te fais peur. Tu vois, il y avait le fameux Bordeaux, 3000 pieds, 300 nœuds, les trois ponts. T'as dû entendre parler de ça.
Ah non, même pas. Bah, c'est quoi, pardon?
Eh ben, quand tu arrives à Bordeaux, si un jour tu vas à Bordeaux, quand tu es à 3000 pieds sur l'ILS de la piste, attends, c'est laquelle, bon, c'est la piste principale, la grande qui est face au sud-ouest.
Comme ça, non?
Ouais, ouais. Ou une 26, enfin, je sais plus, ou 23, ouais, peut-être. Eh ben, à 3000 pieds, tu as trois ponts dans le coin, là. Et nous, on sait qu'on arrivait à 300 nœuds à 3000 pieds avec les trois ponts, on faisait le terrain. Tu vois, maintenant tu ferais pas ça.
Ouais, je ne fais jamais. Si mon capitaine va accepter si je lui propose ça la prochaine fois.
Ne fais pas ça, si tu t'es pas entraîné, ça va se terminer par une remise de gaz.
Je vais éviter.
Mais bon, voilà, la France, c'était. Moi, j'ai trouvé que la France, c'était super pour apprendre à piloter en cours courrier, à condition que tu puisses faire des approches à vue. C'est pas d'aller faire des ILS en Europe qui t'apprend quoi que ce soit. C'est de manier l'avion, et Air Inter, les mecs, ils maniaient l'avion, et en plus c'était vraiment axé là-dessus. Même l'instruction, ils étaient vachement balèzes. Ils nous parlaient de l'aérodynamique du vol et de comment voler l'avion. On avait des sondes d'incidence, on pilotait à l'incidence aussi. Donc en fait, et on avait des HUD, et donc c'était vachement intéressant, quoi. Le HUD, maintenant, bon, il sert que pour la 4-3, alors qu'en fait, pour monitorer une approche à vue, c'est vachement bien. Et tous les gens qui ont fait de la chasse te parlent du HUD sur leurs avions, ils pilotent qu'avec ça, quoi. Tellement c'est génial. Mais ça, c'était un truc intellectuel, c'était un truc qui faisait peur aux pilotes de la grande maison, parce que pour eux, il n'y avait pas assez de papier. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'on se fichait un peu d'eux en les appelant les notaires, alors que c'est mes potes de promo et que. Voilà, on se connaît. Mais eux, s'il n'y avait pas assez de papier, ça n'allait pas, quoi. Et alors que nous, le cockpit sans papier, nous, on demandait que ça. Quand on est arrivé, quand on a fait la fusion, on a fait un bond en arrière. Pour moi, on a fait un bond en arrière parce que, si tu veux, déjà, rien qu'au niveau des facilités de la compagnie pour les GP, mais ne serait-ce que ça, nos épouses et nos enfants avaient des cartes GP. Ils n'avaient pas besoin de nous demander qu'on leur prenne des GP. Air France, tu allais demander... Pour avoir un GP pour ton épouse, tu allais demander la permission d'avoir un GP pour ton épouse. Nous, elle prenait les GP qu'elle voulait. Voilà, elle aurait pu prendre le vol. Elle prenait le vol sans toi. Enfin bon, elle n'a pas besoin de toi pour avoir un GP. Ne serait-ce que des choses comme ça, aussi bêtes que ça. Des trucs... on avait une facilité de vie dans cette compagnie qui était géniale.
Et c'est ça qui a posé problème, du coup, lors de la fusion. Parce qu'il y a eu des problèmes humains dans des équipes.
Ah oui, il y a eu des problèmes humains parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'anciens Air Inter qui sont passés avec les listes de seniorité, qui sont passés devant des gens d'Air France qui avaient fait déjà leur plan de carrière et qui voulaient aller faire du long courrier et qui se sont vus passer devant par des gens d'Air Inter qui n'avaient jamais fait de long courrier en plus. Et ils nous disaient, bon, avec raison, ouais, mais vous êtes Air Inter, c'est pas pour faire du long courrier et vous allez nous piquer les places. Donc moi, je comprends qu'ils n'étaient pas contents. Mais l'histoire a duré quand même un peu longtemps parce que y en a quand même. Mais pareil, c'est toujours pareil. Hein, des deux côtés, quand t'as des gens qui exagèrent, ça se passe mal, c'est tout. Donc en fait, ça hurlait un peu de partout, ça s'entendait mal, on se traitait de noms d'oiseaux. les hôtesses et les stewards inter, ils n'étaient pas contents parce qu'ils avaient perdu du salaire. Alors nous aussi, on en perdait parce qu'en fait, avec le système qu'on avait des heures fictives, on gagnait notre vie aussi bien que les gens sur long courrier Air France.
Parce qu'Air France, c'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que quand tu faisais une heure de vol, quand tu faisais 4 heures de vol dans la journée parce que tu avais fait que du court courrier, tu avais un système qui faisait que plus tu allais vite, plus tu avais un multiplicateur qui, au lieu de faire une heure, ça te comptait une heure et demie, si tu veux. Parce qu'en fait, quand tu fais, si tu fais une journée de 8 heures ou 9 heures avec 4 heures de béton et 4 heures de vol, c'est pas très rentable, quoi. Mm-hmm. Donc, en fait, on avait ce qu'on appelait les heures fictives. C'était un multiplicateur qui multipliait tes heures de vol. Donc, en gros, on avait 30%. C'était comme si on avait fait 30% de plus d'heures de vol pour que ça soit cohérent avec le long courrier d'Air France.
D'accord.
Ce qui faisait que les gens d'Air Inter gagnaient leur vie aussi bien que les gens du long courrier d'Air France. Et ça, nos collègues au court courrier du moyen courrier Air France, ils l'avaient mauvaise parce que pour eux, c'était la punition, le moyen courrier. Mmh. Parce qu'en fait, ils te disaient, ouais, nous, on veut faire du long courrier, c'est ça notre carrière, ce que je comprends. Hein. Mmh. Et ils te disaient, ouais, mais vous n'êtes pas des pilotes, vous faites que du court courrier. Bon, moi, je veux bien, mais. Si
c'est
j'étais vachement.
On peut mettre derrière vous, vous êtes pas
oui,
parce que.
Mais oui, non, mais c'est vrai, mais en fait, c'est idiot, mais maintenant, c'est plus comme ça, heureusement, parce que tout ça, ça a fait vachement de bien en France. Il y a plein de gens qui sont arrivés de tous les horizons, il y a eu un brassage et tout. Bon, t'as des gens qui l'ont mal pris, mais bon, écoute, faut savoir aussi s'adapter un peu. Hein, parce que c'est quand même le rôle d'un pilote, c'est de s'adapter à toutes les situations, quand même. Donc, moi, je me suis très bien adapté, j'ai trouvé des gens vachement sympas, j'ai eu des instructeurs vachement sympas. J'ai volé avec plein de gens différents. Tu voyais s'ils venaient d'Air France ou d'Air Inter, ça, il n'y avait pas de problème. Ça se voyait tout de suite.
Il
y avait une espèce de, tu vois, ça se voyait. Tu te sentais qu'il y avait des gens qui étaient plus coincés que d'autres, quoi.
On ne dira pas d'où ils venaient, mais voilà.
Mais voilà,
pas
non, mais bon, maintenant tout ça c'est terminé, c'est derrière. Voilà, la compagnie, elle est géniale. Moi, quand je suis arrivé sur long courrier, je suis arrivé, j'ai fait du 320 et puis comme je faisais de l'aéroclub à la base sud, là, moi, je trouvais ça sympa. Je me disais quand même, un jour, il faut que j'aille faire du long courrier. Et ce que je demandais le 747 en me disant, pourquoi comme ça, je vais encore rester un peu plus longtemps sur 320. Sauf qu'un jour, il y avait des tas de gens qui partaient sur 330 et tout ça. Et moi, je partais pas. Et puis un jour, comme les gens mettaient, tu sais, ils faisaient leur désidérant en mettant d'abord le 330, après le 747, après le je sais pas quoi. Mais en fait, tu partais sur le premier que tu avais mis. Donc moi, comme je mettais toujours le 747, et un jour, j'étais appelé devant des gens qui avaient mis le 330 et je suis parti avant eux. Parce que donc, je suis passé du 320 au 747, ça fait quand même une grosse marche. Et là, je suis tombé sur une équipe super parce que c'était un petit secteur, le 747 et le 400. Et donc, ils nous ont dit, vous venez d'Air Inter, vous n'avez jamais fait de long courrier, on va s'occuper de vous. Et c'était vachement bien. Ils nous ont fait une super qualif et puis après, ils nous ont dit, maintenant que vous êtes lâchés, si vous êtes d'accord, on vous met des copies qui ont un peu de bouteille pour vous apprendre ce qu'il y a à apprendre sur le long courrier. Si tu veux, c'est un espèce de compagnonnage qui ne le dit, c'est pas dit, mais c'est du compagnonnage. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Et c'est un truc qui devrait exister partout et en fait, ça se fait pas. C'est très rare, le compagnonnage. Et là, dans ce petit secteur, ça se passait comme ça et c'était génial. Moi, j'ai eu des copies, des vieux copies qui m'ont appris des tas de trucs. Et puis après, moi, je savais piloter les avions parce que j'avais fait 20 ans de court courrier. Donc ça, je savais piloter. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé sur 747, ils me voyaient faire des approches, j'arrivais un peu vite. Je voyais que les mecs, c'était pas leur truc. Eux, ils étaient stabilisés, vachement loin. Moi, j'arrivais un peu cul par-dessus tête, comme j'avais l'habitude. Et finalement, l'avion, le 47, c'est comme tous les avions. Ça se manie comme tous les avions. Hein. C'est un tas de ferraille. Hein. C'est toi qui le pilote. Et quand j'ai été lâché, je me rappellerai toujours aussi. Je suis arrivé à Boston pour être lâché. Je crois que c'était Boston. Et les ricains, vous voyez l'avion devant, vous le suivez. Voilà, ça se passait comme ça, ouais, quoi. Donc moi, je me retrouvais dans mon élément, je dis ah, c'est bon, ça, on va se faire l'approche à vue, quoi. Et même sur long courrier, tu fais des approches à vue, mais c'est vrai, les approches à vue, si t'en as pas fait ou si t'as peur d'en faire, et que si t'en fais jamais, tu peux pas être à l'aise, hein, c'est normal. Donc je sais que je m'en suis fait des approches à vue, j'en ai fait plein, hein, sur long courrier, j'en ai fait aux Antilles, j'en faisais, enfin dès qu'on pouvait, dès que je pouvais, j'en faisais, et j'en faisais faire à mes copilotes aussi. Et pareil sur 320, mes copilotes, je leur faisais faire plein d'approches à vue. Et j'aurais fait leur découvrir l'approche à vue par le col à Ajaccio. Bon, maintenant, ça se fait plus. Parce que tu as des mecs qui ont fait n'importe quoi, qui ont fait sonner toutes les alarmes parce qu'ils ne savaient pas comment il fallait le faire. Et voilà.
Et tu me disais effectivement en préparation de cet épisode que tu aimais voler avec des jeunes copies et leur faire confiance. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui, tu penses
Non, je pense pas que ça manque, mais je pense pas que ça manque. Mais je pense que après, tu es plus ou moins à l'aise sur les machines, on n'est pas égaux, il y a des gens qui sont peut-être plus stressés que d'autres. Au début, on parlait des gens qui étaient formés à l'intérieur des compagnies par la promotion interne. Mmh. Et on te disait, ouais, les nouveaux stagiaires, là, ils sont pas aussi bons que les autres et tout. Parce que on leur avait pas appris à faire un atterrissage vent de travers, alors ils se posaient un peu comme des bouchers. c'est pas grave, je veux dire, l'avion il est fait pour encaisser, hein. Mais après, quand tu vois par exemple sur 3A, moi ce qui me frappait c'est qu'ils mettaient toujours l'autobreak. Je leur dis, mais attendez, vous savez freiner, parce que si un jour l'autobreak il est en panne, vous allez même pas vous en rendre compte. Donc pour moi, l'autobreak sur un petit avion, enfin sur un petit avion, un 3A c'est pas un petit avion, mais sur un court courrier, un moyen courrier, si t'es pas fatigué, tu fais le freinage toi-même. Mais l'autobreak, c'est fait pour quand il y a vachement de vent de travers, quand la piste est mouillée, pour justement que le freinage soit symétrique. Mais quand il fait un temps de curé, mais freine, quoi. Essaye de connaître ton avion. Par exemple, est-ce qu'on peut sortir à cette bretelle? Tu vois, bon, à Bordeaux, le challenge, c'était de sortir à la première bretelle, comme à Brest. mais bon, parce que, en fait, c'est vachement bien de connaître les limites de son avion. Quand je suis arrivé sur 400, sur 747-400, le chef pilote, il nous a dit, bon, la prochaine fois que vous allez à Hong Kong, en cargo, bah, t'essayes de sortir à la bretelle la plus proche. Tu vas voir comment ça freine. Et ben, moi, je l'ai fait. J'ai fait autobreak max. Puis, autobreak max, tu peux freiner toi aussi par-dessus. Hein. Bah, quand tu vois comment s'arrête un avion, je peux te dire que c'est redoutable. Mais quand les gens ne connaissent pas les limites de leurs avions, quand ils ne savent pas comment ça. Parce qu'on leur dit, c'est un peu comme quand on dit, tu apprends à conduire, on te dit, ah ouais, mais là, tu ne dépasses pas le 50 à l'heure parce que dans le virage, tu vas te foutre en l'air. Mais ce n'est pas vrai, quoi. Un avion, c'est pas parce que tu connais les limites et que t'es allé voir que tu vas faire des bêtises. Au contraire, tu les connais, donc tu sais comment ils freinent, tu sais comment ils volent, tu sais qu'à telle vitesse, à tel endroit, enfin sur tel plan, là tu connais les distances de réduction de vitesse. En fait, tu connais tout ça. Mais si tu l'as jamais fait, que tu fais que du truc comme standard, tu t'apprends jamais rien, quoi. Puis c'est moins marrant.
Bon, après, à la compta, ils doivent être contents quand ils voient passer les factures de frein aussi.
je vais te dire un truc. J'ai fait un jour un freinage comme ça sur un terrain africain, je crois que c'est au Cameroun, où justement on prenait du carburant. L'avion repartait pas longtemps après, et donc il fallait éviter de faire chauffer les freins. Et bien, figure-toi que si tu freines très fort et pas longtemps, moi à chaque fois, et les mécanos me l'a fait remarquer, mais vos freins sont pas chauds, parce que j'ai freiné comme un malade et pas longtemps. Okay. Et ben, par contre, ils chauffent moins, mais je sais pas si tu les uses plus ou moins, j'en sais rien. Okay. Ça, je peux pas te dire.
Mais investiguer.
Alors freiner fort et puis freiner fort au début et relâcher à la fin, c'est mieux que de freiner pas beaucoup au début et de mettre tout le monde dans la tête dans le à la fin. Ça c'est mon point de vue. Hein. Ça n'engage que moi. Mais bon, on l'a tous fait. Air Inter, on connaissait les avions parce qu'on allait les mecs avaient un peu testé les limites, si tu veux. Parce que quand je suis parti au moment de la fusion aussi, au bout d'un moment, je suis parti à l'aéropostale parce que justement, ça c'était avant que j'arrive sur 320. Quand il y a eu vraiment la fusion, je suis parti sur l'aéropostale parce qu'il y avait une mauvaise ambiance à l'aéropostale. C'était des 737 quick change. Alors là, c'était tu volais, tu décollais, tu volais au claqueur, tu montais au claqueur sur vitesse, tu faisais la croisière au claqueur et tu descendais au claqueur. Et tu regardais combien de temps tu avais mis pour faire Paris-Ajaccio, Paris-Lyon. Et puis parce que c'était pareil là, c'était les heures fictives et à l'aéropostale on avait nos collègues d'Air France parce que c'était une compagnie mixte. Air France
Air pendant tout le vol quoi.
Et nos collègues d'Air France, je peux dire que c'était pas les derniers parce que quand ils ont compris qu'on pouvait se lâcher, qu'on pouvait piloter un peu comme on voulait, qu'on pouvait quand même voler plus vite que ce qu'on leur avait appris, ils étaient vachement contents. Hein. Puis ils étaient pires que nous. et on faisait des nuits comme ça et c'était encore une autre ambiance. Ça c'était un peu l'ambiance camionneur là. Ça marchait vachement bien. Il y avait une super ambiance. Tu emmenais le commandant de bord avait un carnet à souche et il pouvait donner des GP à qui il voulait. Alors ça c'est mais pareil, jusqu'au jour où il y en a un qui a abusé et ça s'est arrêté. Et tu vois, comme quoi, quand tu laisses la liberté et que tu as des gens qui ne sont pas sérieux, les choses s'arrêtent. Et c'était dommage parce qu'on transportait, moi j'ai emmené des copains en vol qui n'auraient pas eu de rejet. Je les ai emmenés en vol sur un vol cargo, ils ont vu un vol cargo, ils étaient vachement contents. Quoi.
Ouais, c'est ça, plus le temps passe, moins on a de liberté parce que plus les gens ont le temps de faire des conneries. Quoi.
Bah ouais, mais bon, et justement c'est un peu dommage parce qu'il faut quand même défendre notre beefsteak. Parce que cette histoire de ne plus piloter, de baisser les compétences des gens, ça va se terminer par baisser tout le reste aussi, hein, si tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est un peu dommage, quoi. Aussi bien des gens qui vont mal se comporter, si tu les sanctionnes jamais, bah, c'est pas bien. Si tu fais comme à Emirates, où dès qu'il y a un mec qui fait une bêtise, tu le vires parce que tu penses que ça va faire peur aux autres et qu'ils vont pas faire la même bêtise, ça c'est une grosse erreur aussi, c'est bon.
On parlait de CRM, là c'est encore un autre sujet, la culture juste. Bon, on n'a peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais...
Ben oui, mais bon, pour moi, la culture juste, c'est justement faire confiance aux pilotes pour qu'ils fassent des reports et que... anonymes et que voilà, qu'on tire erreur, chacun tire... qu'on puisse tirer ce qu'il faut des erreurs des autres pour ne pas les reproduire. C'est pas en punissant les gens que tu obtiendras quoi que ce soit, c'est complètement ridicule. D'ailleurs, ça fait depuis des années que ça existe Air France et ça marche très bien. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y a d'autres compagnies où ça marche, il n'y a pas de raison que ça, tu ne continues pas à faire des progrès avec ça, parce que ça, c'est une partie vachement importante aussi de la sécurité. De faire confiance aux gens et de, voilà. Et puis moi, quand tu fais une connerie et que tu vois la truc sortie, les mecs, ils dépouillent un vol et ils disent, hey, t'as vu ce qui s'est passé là, et bah, t'analyses le truc, tu te dis, eh ben ouais, bah, je l'avais pas vu, je me suis fait avoir. C'est ne serait-ce que de te poser, faire un atterrissage dans les 900 premiers mètres. Bah, des fois, c'est pas, tu te dis, ah, mais je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Tu passes à l'analyse des vols, tu te dis, ah, bah, là, bah, tu t'es posé à 950 mètres ou tu t'es posé, bah, non, tu t'es posé à 800 mètres, c'est bon. Bah, si on te le dit jamais, tu peux pas le savoir. C'est pas évident, tu peux avoir un doute. Donc, c'est pas parce que tu t'es posé à 1000 mètres sur une piste de 4000 mètres qu'il faut te tirer au fusil, quoi. Si tu te poses à 1000 mètres sur une piste de 2000, oui, là, t'aurais dû remettre les gaz.
Ah, c'est plus compliqué.
Ouais, voilà.
Bon, bah écoute, ça, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ta carrière, si je dis pas de bêtises. On a vu de l'ENAC jusqu'à Air France.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc, bon, bien sûr, on n'a pas pu parler de tout. Hein. Résumer 30 ans de carrière en une heure, c'est une tâche impossible.
Mais j'ai quand même une autre anecdote à te raconter, bah, c'est fou, puisqu'on va arriver aux anecdotes.
Bah, voilà, bah, c'est le moment de l'anecdote, ou des anecdotes même, on t'écoute.
figure-toi que j'ai fait une accélération arrêt sur 747, et c'était vachement instructif. J'ai fait une accélération arrêt à Guadalajara, donc c'est au Mexique, c'est à 7000 pieds, je crois. Et le V1 était à 169 quand même. Et on était à la masse maxi décollage. Donc on était limité piste. Et je crois que la masse maxi, si je ne dis pas de bêtises, elle était dans les 400 ou 440 tonnes, je ne sais plus.
Alors V1, juste, on a quelques auditeurs peut-être qui ne savent pas
alors,
ce que c'est.
La V1, c'est la vitesse de décision à partir de laquelle, si tu as passé V1 et qu'il y a une panne moteur, tu continues le décollage parce que tu sais que tu as assez de piste et que tu as assez de puissance sur le moteur restant pour continuer. Et avant V1, eh ben, tu t'arrêtes parce que tu sais que tu as assez de piste pour t'arrêter et que tu ne vas pas aller te mettre en l'air avec le moteur défaillant. Et comme tu as assez de piste, tu t'arrêtes.
Et comment ça marchait du coup sur 747 avec 4 moteurs ? C'était exactement le même principe ou il y avait
C'est le même principe. Hein. Ouais. Non, c'est exactement le même principe. Okay. Et donc, en fait, on avait ce jour-là une V1 de 169 et on avait décollé. Donc, on faisait Mexico, Guadalajara. Je crois qu'on faisait après Paris direct. Ouais. Et donc, on décollait de Mexico à minuit là-bas. Donc, t'es pas très frais. On arrivait à Guadalajara genre 2 heures du mat et on repartait genre 4 heures du mat, un truc comme ça.
Ah ouais, dur.
Et là, on était quatre quand même. Donc j'avais 3 OPL. C'était l'OPL qui faisait le décollage et il y en avait deux sur les sièges derrière. Et donc, on prend l'avion en compte et tout, et puis on fait le décollage. Et juste avant V1, j'entends ding, 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 ding. C'est l'alarme. Qui te dit que tu as une mauvaise config. C'est l'alarme config. Moi, j'entends ce bruit, je gueule stop, je prends les manettes, je les tire en arrière, je ne réfléchis pas et je fais l'arrêt décollage. Et là, l'avion s'arrête. Et alors, je te dis, on était limité piste, donc on aurait dû s'arrêter au bout de la piste. Et là, l'avion s'arrête sur la piste. Et je dis, mais On peut prendre la bretelle, on ne va pas rester sur la piste quand même. Ils n'ont qu'une seule piste, on ne va pas leur foutre en l'air. Les freins, bah, ils ne sont pas chauds, c'est bon, on dégage. Et je n'arrivais pas à dégager. En fait, c'est l'OPL qui avait... Moi, j'avais fait l'arrêt décollage et l'OPL, il n'avait pas laissé faire l'autobreak, je n'avais pas vu qu'il s'était déconnecté. Il était debout sur les freins, tétanisé, debout sur les freins.
Ah oui.
Et il me dit, excuse-moi, il enlève ses pieds des freins, on dégage la piste, tu vois. Et puis, on va se mettre sur un taxiway. Et là, on se dit, putain, on était limité piste, on s'est arrêté 500 mètres avant. Et moi, j'avais mon épouse dans l'avion. Donc, il y en a un des deux derrière qui est allé la voir. Il dit, ça va? Elle dit, ben oui, je sentis qu'on s'arrêtait, mais c'était pas si violent que ça, en fait. et en fait, on dégage la piste. Et là, on était vachement contents parce qu'on voyait pas les freins chauffer. Moi, j'avais un doute. Je me dis, est-ce que j'ai fait ça après V1 ou avant V1? C'était mon seul doute. Et puis, les deux autres derrière, tu vois, parce que bon, tu as le nez dans le guidon avec l'OPL à droite. Tu dis, bon, ça va, c'est cool, on n'a rien cassé, bon, tout le monde va bien. Et l'autre dit, vous pourriez peut-être balancer un MED, appeler les pompiers quand même. Je dis, oui, ça, c'est une bonne idée, tu vois. Comme quoi, ça sert d'être plus que deux. Parce que nous, on était en train de se relâcher, tu vois, alors qu'il ne fallait pas.
Ah bah c'est bon, c'est réglé, on n'est pas sorti de la piste.
Et voilà, on était vachement contents. Hein. Et donc, on appelle les pompiers, et ils arrivent... Et on leur explique, ils nous vaporisent alors de la flotte sur les freins, ils regardent et tout, et puis bon, au bout d'un moment, bon, vous voyez les températures monter, si tu veux, donc on leur explique, vous vous mettez pas perpendiculaire, vous vous mettez pas sur le côté, hein, vous, vous mettez bien face au pneu, parce que si ça pète et tout, que vous ne le preniez pas dans la figure. Donc, au bout d'un moment, bah, tout ça est terminé et on appelle Paris. Évidemment, c'était 6 heures du mat. Donc, tu penses, on tombe sur des mecs qui dormaient à moitié, qui ne comprenaient pas trop. Les pauvres, ils avaient fait toute la nuit. Et puis, c'est au matin, quand ils ont envie de dormir, que tu les réveilles pour leur dire, ouais, on vient de péter toutes les roues.
Rappelez dans une heure, là, on ne peut pas.
et donc, ça s'est terminé que, bah, évidemment, toutes les roues ont fini par se dégonfler. Donc, c'est quand même vachement long. Par contre, quand tu descends sur la piste, tu t'aperçois que tu peux faire cuire un œuf sans problème. Et on a fait toutes les roues de tout le train. Et c'est pas beau à voir, hein, quand c'est complètement dégonflé. Mais ma leçon de ce truc-là, c'est qu'on est vachement bien mécanisé et que ça marche vachement bien. Et que c'est vraiment un entraînement qui sert, quoi. Et en fait, j'ai bien fait, après avoir tiré les bandes, j'ai bien fait l'arrêt décollage un nœud avant V1, tu vois.
Ah oui,
on a passé V1 de 3-4 nœuds, mais ça c'est normal parce que le temps que tu réduises. Et puis voilà, les choses se sont passées comme il faut. En fait, c'était une fausse alarme, hein, mais bon, tu peux pas le savoir.
Oui, bah oui, non, tu peux pas vraiment deviner à ce moment-là.
En fait, c'était une alarme qui disait que en fait il y avait c'était une alarme. Qu'il y avait des aérofreins sortis. Genre, si on avait décollé comme ça, vraiment une alarme avec tu décolles avec une config à moitié d'aérofreins sortis, c'est un truc à te foutre en l'air, quoi. Donc, on s'est arrêté et puis voilà, le problème était réglé. Ça nous a valu de rentrer d'ailleurs en première classe sur le 77 de Mexico à Paris.
Ça va.
Ça va. Et puis voilà, donc ça c'était une anecdote. Je me suis dit, bon, finalement, on est quand même vachement bien entraîné, tu vois.
Tout ça avec un simu quelques mois avant, et c'était la première de ta carrière, du coup
C'était, tu vois, j'ai eu une panne moteur, j'ai eu une accélération arrêt, c'était la première de ma carrière, et bon, j'avais pas de passager, hein, c'est plus facile hein, quand t'as du cargo, t'as personne à gérer. Hein. Parce que ça, c'est une autre histoire. Après, quand tu as géré les PNC, les passagers, savoir si tu fais une évac ou pas, nous, le problème ne se posait pas. On pouvait faire une évac si on voulait, nous, mais bon, il n'y avait pas besoin. Mais si tu as des passagers, tu es censé rester sur la piste parce qu'évidemment, l'évacuation est beaucoup plus facile sur une piste où tu as vachement de place autour, alors que là, on était sur un taxiway près d'un grillage. Mais d'un autre côté, je me suis dit, attends, les freins sont pas chauds, on va quand même dégager la piste, on va pas leur pourrir la piste parce que l'avion, il est resté sur place 3-4 jours quand même.
Ouais, j'imagine que sans les roues, ça roule moins bien. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette anecdote et puis pour toutes celles qui précédaient. Est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer cette discussion aujourd'hui?
Un mot de la fin, moi je dirais qu'il faut vraiment piloter, il faut vraiment connaître ses avions et les piloter, quoi, et savoir les piloter. Et je trouve que quand tu analyses un peu ce qui se passe là dans les accidents aériens, que tu vois les pertes de contrôle, moi ça me met un peu les. Je me dis mais pourquoi les pilotes perdent le contrôle? Et je me dis mais voilà, on n'autorise pas les gens à piloter. Je ne sais pas comment c'est dans toutes les compagnies, mais j'ai entendu dire que dans des compagnies comme Ryanair ou d'autres, à 1000 pieds, tu es censé mettre le PA, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais je trouve ça un peu désolant, quoi, de ne pas faire confiance, parce que ça, en fait, c'est un manque de confiance envers les pilotes.
Alors, effectivement, il faut mettre le PA à 1000 pieds, sauf si tu as briefé avant que tu restes en manuel. Donc, tu as quand même le choix de rester en manuel jusqu'au niveau 245.
C'est bien. Eh bien, alors, il faut en profiter. Alors, moi, voilà. Je dirais qu'il faut le faire. Et surtout, sur cours courrier, il faut toujours le faire. Il faut essayer de faire des approches à vue. Mais bon, il faut les briefer. Parce que pour moi, il n'y a que comme ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en pilotant que tu sais piloter et que tu es vachement à l'aise. Parce que quand tu vois les erreurs qu'il y a avec les automanettes, les mecs qui te cassent des avions parce qu'ils ont cru que l'automanette allait faire le boulot. Alors c'est pareil, ça, l'automanette, moi, je n'ai jamais piloté en hybride, j'aime pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui le font parce que, bon, c'est vrai que j'aime pas ça parce que quand tu es dans le zig, elle est dans le zag, et inversement. Et il y a des avions sur lesquels, je me rappelle, en 320, à l'époque, elle n'était pas terrible parce que j'ai fait une approche à Lyon avec 70 nœuds de vent de face. Je peux te dire que j'avais enlevé l'automanette parce que sinon, tu te retrouvais, le truc, il allait te mettre, il allait te coller dans la VNE, enfin bon, dans des vitesses pas possibles. Et puis c'est, je vais dire, tes pilotes, c'est toi qui sais tenir, tu sais tenir une vitesse. Il faut s'entraîner à le faire parce qu'à force de ne plus le faire, les gens ne regardent plus. Ils font confiance je pense qu'ils font confiance à leur automanette avec raison, sauf qu'ils ne regardent plus leur vitesse et que maintenant on voit des passages sous les vitesses, on voit des tas de trucs. Alors on te dit oui, mais vous dégradez la sécurité de l'avion quand vous n'utilisez pas tous les automatismes. Alors moi, il y a un collègue avec qui j'ai discuté sur un forum qui disait, mais nous, quand on a passé nos qualifs, il y avait toutes ces aides au pilotage. Ces aides au pilotage, elles sont là pour nous aider. Donc, ça veut dire qu'on sait piloter l'avion sans les aides. Mais si maintenant, on met les aides au pilotage et qu'on ne sait pas piloter l'avion sans les aides parce qu'on nous interdit plus ou moins de le faire, ça veut dire qu'on ne sait plus piloter, quoi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Normalement, les aides sont à ton service. Ce n'est pas toi qui dois piloter l'avion qu'avec les aides parce qu'autrement, on s'en sort pas. Et donc, moi, je dis, si vous pouvez, piloter en manuel le plus que vous pouvez, profitez-en, parce que ça va peut-être pas durer.
Bon, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, quand même. Mais
faites-le durer, parce que ça dépend de vous, de tous les jeunes. Il faut vraiment que vous tapiez dans le truc et que vous fassiez durer. J'imagine que quand vous pilotez l'avion, si tu pilotes ton avion et que tu t'éclates pas, je comprends que tu ne le pilotes pas, mais je suppose que si tu pilotes, c'est que tu t'éclates, c'est que ça te plaît, c'est que c'est le boulot te plaît, donc il faut le faire, quoi.
C'est ça qui est bon, ouais.
C'est ça qui est bien. Et pareil pour les atterrissages. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, il y a la fatigue qui vient derrière, qu'il faut en tenir compte aussi. C'est pas tout le monde, on n'est pas égaux là-dessus. Tu as des gens qui sont fatigués plus vite que d'autres. Automatisme, je comprends. Mais le problème des automatismes, c'est que je trouve que ça devient tellement complexe que des fois, tu sais plus ce que fait l'avion. Et on le voit dans les accidents, les gens, leur avion fait un truc, ils comprennent. Et moi, ça m'est arrivé aussi, je comprends pas ce que fait l'avion, moi je déconnecte et je reprends la main. Quand j'ai compris, je remets. Et je pense que c'est un instructeur censé dira toujours qu'il faut faire comme ça, mais bon.
Oui, carrément, enfin, je suis d'accord avec toi. Bon, du coup, gardez vos avions à la main le plus longtemps possible. Et puis.
Et profitez-en et défendez votre beefsteak.
Voilà.
J'espère que vous allez venir à Air France aussi. Je pense qu'ils vont avoir besoin de pilotes bientôt.
Pour ceux que ça intéresse, je souhaite que ça.
Et parce que Air France, c'est une super boîte et il faut vraiment qu'il y ait des pilotes qui soient là pour que ça parte pas n'importe comment et qu'on laisse pas faire n'importe quoi. Et il y a des mecs super dans cette boîte. Il y a vraiment des pilotes super. Il faut. Voilà, voilà.
Merci beaucoup, Gildas, pour ce moment. Moi, j'ai passé un super moment à discuter avec toi. Et puis, j'espère que les auditeurs vont savoir s'inspirer de ton histoire et de tout ce que tu as apporté.
Voilà, et ben écoute, j'espère à bientôt sur nos lignes, peut-être en GP, quand je prendrai l'avion.
Carrément, carrément. Merci beaucoup. Ciao.
Ciao.
Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment en écoutant cet épisode de l'expérience Shiban. Si c'est le cas, je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée, sur les réseaux sociaux, de nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit, et surtout, et c'est vachement important pour nous, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Si tu apprécies notre travail, tu peux également nous soutenir financièrement. Cela nous permet de faire plein de choses. Découvrir nos frais, d'acquérir du matériel pour continuer à proposer du contenu toujours plus qualitatif, d'aller à la recherche d'invités toujours plus passionnants et d'explorer à l'avenir de nouveaux formats. Pour ce faire, tu peux t'abonner à notre Patreon pour un don mensuel avec des contreparties intéressantes pour toi ou nous faire un don ponctuel via PayPal. Les liens sont en description de l'épisode et sur notre site internet xpshiban.com. Allez, prends soin de toi et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion pleine de passion.